Bonjour à vous tous de l'école du dimanche. Comment allez-vous ce matin? Bien, j'espère. Amen. On nous a pris un peu au dépourvu en nous demandant d'être ici ce matin, parce que mon itinéraire n'a pas encore été fixé quant au jour de mon départ. Et étant donné qu'il est tracé pour les 6 prochains mois, eh bien j'ai pensé que ce serait préférable que nous ayons le service de ce matin, parce qu'autant que je sache, je ne reviendrai pas avant quelque temps, peut-être cet automne. Nous partirons donc cette semaine pour Beaumont, Texas, où nous commencerons la semaine prochaine une série de réunions qui durera de 8 à 10 jours en collaboration avec des groupes indépendants et différentes églises. En fait, ce sera parrainé par les églises du nom de Jésus de Beaumont, Texas, où nous avons eu cette grande réunion juste après que cette photographie fut prise. Et je sais qu'ils ont un autocar, 27 autocars, je pense, ou un convoi de 27 wagons qui seront à Beaumont pour les réunions. C'est là où le maire de la ville et tous les autres défilèrent dans les rues. Nous eûmes un temps très béni. Nous y retournons donc la semaine prochaine. Nous pensions aussi aller à San Antonio, mais nous n'aurons pas assez de temps en revenant. Nous allons ensuite à Phoenix, puis à Los Angeles, puis à Long Beach. Puis, le Seigneur voulant, nous reviendrons vers la côte Est, nous rendant jusqu'en Virginie et en Caroline du Sud. Nous nous rendons ensuite à Bloomington, Illinois. Puis de là, à l'école secondaire Lane Tech, la dernière semaine d'avril, pour les hommes d'affaires chrétiens. Après cela, je partirai pour le nord de la Colombie-Britannique, en direction de l'Alaska, et je serai là-bas jusqu'en juin. Nous espérons avoir un temps très béni. Je prie que l'enquête qu'on me fait subir depuis un certain temps au sujet de l'impôt concernant l'Église soit terminée à ce moment-là. Alors, si cela est terminé, nous pourrons aller par-delà les mers, dès juin, ce qui tomberait bien pour l'Afrique en juin, juillet et août. Ainsi, j'ai certainement besoin de vos prières. Et nous attendons le retour du Seigneur. Toutes ces choses sont, si le Seigneur le veut, voyez-vous, nous ne savons pas. Il pourrait... Cela n'est pas exactement ce qu'on appelle à être conduit, car nous avons rassemblé toutes les invitations et avons prié à ce sujet, demandant au Seigneur quelle direction prendre. Et il semblait que la décision n'en revient pas qu'à moi seul. Je laisse les autres réfléchir et prier à ce sujet. Et il semble que nous nous sommes tous sentis poussés d'aller vers l'ouest, au sud et à l'ouest cette fois-ci. Ayant reçu des invitations de partout, nous avons pensé commencer juste au sud. Comme premier endroit, j'avais sur mon cœur soit Beaumont ou San Antonio. En regardant bien, nous étions invités aux deux endroits. Nous appelâmes quelqu'un de Beaumont, et étant donné qu'ils avaient la collaboration de 42 églises, la Pentecôte unie, etc., nous avons pensé qu'il valait mieux leur accorder 10 jours dans un grand auditorium que d'être 5 jours à un endroit et 5 jours à l'autre. Je pense que c'est plus avantageux si vous centralisez les réunions comme cela. De plus, il y a beaucoup de gens nécessiteux à Beaumont, et partout dans cette lointaine région pétrolière du Texas. Nous nous attendons donc à avoir un temps très béni à Beaumont. Nous n'essayons jamais d'aller dans les centres et les endroits importants, mais plutôt d'aller là où le Seigneur nous conduit, peu importe l'endroit, pourvu que le Seigneur nous conduise. Or, il pourrait nous lancer n'importe quand un appel macédonien. Ainsi, nous sommes toujours prêts à partir pour répondre à son appel, quel qu'il soit. Nous avons certes apprécié, chers amis, ces moments de fraternité que nous avons passés ensemble autour de la parole de Dieu. J'espère que vous serez assidus aux assemblées et que vous obéirez aux enseignements de la Bible donnés par notre brave frère Neville, que je recommande hautement comme serviteur de Dieu. Il avance toujours plus profondément avec Dieu et j'en suis si heureux. Et toi, petite église, je t'exhorte au nom du Seigneur Jésus à grandir dans la grâce de Dieu. Demeurez ferme et regardez toujours au calvaire, enlevant toute racine d'amertume de votre cœur et de votre âme, afin que Dieu puisse vous utiliser en tout temps. Si jamais vous avez à cœur de faire quelque chose, ou si une révélation vient à vous de façon étrange, quelque chose en guise d'avertissement, etc., prenez garde. Satan est aussi fourbe et rusé qu'il peut l'être, voyez-vous. Examinez cela avec la parole de Dieu et consultez votre pasteur. Vous voyez des dons, etc., se glisser dans l'église. Vous voyez ces dons en opération. Premièrement, avant que vous laissiez opérer ces dons et ces choses, voyez si cela exerce une pression sur votre cœur. Maintenant, l'ennemi est très rusé, voyez-vous. Et c'est justement ce qui ruine les églises chaque fois. Un vrai don mal opéré. Voyez, quelque chose que Dieu essaie de faire, mais parce que cela est mal opéré, cela va... Non seulement cela vous fera du tort à vous, mais cela ruinera l'église entière. Voyez-vous, examinez la chose. Faites-la passer au filtre de la parole. Ensuite, éprouvez-la et voyez si c'est Dieu ou non. Continuez simplement à tester et à éprouver cela. Voyez si ça s'aligne parfaitement et directement avec la parole. Alors, vous êtes en ordre, voyez-vous? Aussi longtemps que la parole déclare que ce serait ici, que cela fonctionnerait d'une certaine manière, tenez-vous-en là. Ne sortez jamais de la parole. Peu importe ce que quelqu'un fait, peu importe combien cela semble réel, si cela ne se reflète pas dans les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse, laissez cela tranquille. Ne prenez aucun risque. Nous sommes dans les derniers jours où Satan est aussi trompeur qu'il peut l'être. Pardonnez-moi si je cherche à prendre la place d'un chef. Je ne suis pas le chef, mais je me sens envers vous comme Paul autrefois, qui une fois dit à son assemblée, « Vous êtes les étoiles de ma couronne ». Lorsque je traverserai de l'autre côté dans le pays et que je vous rencontrerai dans cet état de glorifié, je désire que vous vous teniez là pour briller comme les étoiles, voyez-vous. Je veux que vous y soyez et je veux y être. Je me souviens lorsque dans ma vision, je vis la présence du Seigneur ou son peuple dans ce glorieux pays là-bas. Je regardais autour de moi et je leur dis, et ils me dirent qu'ils me jugeraient d'abord par l'évangile que je prêche. Je répondis, je l'ai prêché exactement comme Paul l'a prêché. Et ces millions de gens s'écrièrent, nous nous reposons là-dessus. Voyez-vous, je désire qu'il en soit ainsi. Et nous allons nous rencontrer là un de ces jours. Et Dieu ne nous a jamais envoyé, frère Neville et moi, pour être des grands Manitou, pas du tout. Nous sommes simplement vos frères, voyez-vous, des enseignants de l'Évangile. Ainsi, travaillons tous ensemble. Et s'il arrive qu'un don en opération doit être nommé, ou que quelque chose soit dit au sujet de ce don, qu'il soit rejeté ou quelque chose de la sorte, et que la personne qui le possède refuse la correction, souvenez-vous simplement que ce don n'était pas juste. Dès le départ, ce n'était pas Dieu. L'Esprit de Dieu est toujours prêt à accepter la correction. Il est doux et humble et bien disposé, voyez-vous. Si la personne se lève et dit, je le ferai de toute façon, vous savez comment parfois, rappelez-vous simplement que les esprits arrogants ne sont pas de Dieu. Ainsi, pourquoi prendre un substitut alors que toute la terre est remplie de la gloire de Dieu, voyez-vous, la puissance véritable de Dieu. Pourquoi prendrions-nous un substitut? Le jour est trop avancé maintenant. Mais souvenez-vous que la Bible a dit qu'il viendrait comme un aussi rusé qu'il peut l'être et qu'il séduirait même les élus si possible. Voyez-vous? Or, parfois nous pensons que nous sommes les élus et j'espère que nous le sommes, mais restons solidement attachés à la Bible. Ensuite, si tout s'accorde parfaitement et est en ordre avec l'Écriture, cela fait honneur à l'Église, donne gloire à Dieu, et ainsi nous savons que cela est de Dieu, car la Bible l'a dit. Mais notre opinion seule n'appuiera pas cela. Elle ne servira de rien. Cela s'effondrera. Ainsi donc, si quelque chose nous a frappé, peu importe combien cela nous semble réel, si ce n'est pas juste, Si ce n'est pas scripturaire, débarrassez-vous-en au plus tôt, car il y a quelque chose de réel qui attend, voyez-vous. Ainsi, priez donc, et quoi que vous fassiez, priez pour moi. Priez pour moi, car à mon avis, nous en sommes à nos dernières tournées en pays de mission. Nous allons maintenant, et souvenez-vous, de grandes choses sont en train de se produire, mais le monde n'en a pas connaissance. Jésus vint, vécut, mourut et retourna dans la gloire après son sacrifice, et des millions de personnes n'en surent absolument rien, voyez-vous, car ce n'est pas quelque chose de grand ou d'attrayant. Il est venu chez les siens, voyez-vous, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, pas au monde extérieur, à l'Église. C'est l'Église qui se fait secouer. Autrefois, je pensais différemment, mais un jour, il me parla. Il me fit retourner dans la parole et me rappela comment les prophètes parlèrent tous de la venue de Jean, disant que les hauts lieux seraient abaissés et que les plaines seraient élevées, et comment la puissance de Dieu serait à l'œuvre. Et toutes les montagnes sauteraient comme des béliers et les feuilles taperaient des mains. Eh bien, il semble que quelque chose allait réellement se produire, voyez-vous. Et à ce moment-là, qu'arriva-t-il? Un vieil homme sortit du désert, ayant probablement une barbe hirsute et vêtu d'une vieille peau de mouton. Il n'y avait aucune commodité là-bas dans le désert. Il y avait habité depuis l'âge de 9 ans et avait alors 30 ans. Il sortit du désert, clopin-clopant, pressant la repentance, se tenant sur les rives du Jourdain et ayant probablement de la boue jusqu'aux genoux. C'est à ce moment-là que les hauts lieux furent abaissés et que les vallées furent élevées, voyez-vous. Vous devez avoir une intelligence spirituelle. Souvenez-vous que Dieu n'a jamais habité et n'habitera jamais dans ce qui a de l'éclat. Il est contre cela. Les grands messages ne seront jamais « faites telle et telle grande chose et telle et... » Cela ne marche pas ainsi. Ses serviteurs ne travaillent pas de cette manière-là. Son éclat et sa gloire sont d'en haut. Hier ou avant-hier, je suis allé dans le Kentucky avec mon bon ami frère Bankwood, et une femme policier se tenait là, debout, et dit « Mon vieux, on ferait mieux de ralentir, elle est rude. » Je répondis « À qui dis-tu ? » J'ajoutais « Quand un pays qui emploie des millions de gens est rendu au point de prendre les femmes comme policiers qu'il place là, debout, et comme chauffeur de taxi, etc., c'est là une des plus grandes tâches sur notre nation. Elle n'a pas plus d'affaires là qu'un lapin dans un chaudron de graisse, voyez-vous. Ce n'est pas du tout sa place. Et je dis, cela avait coutume de me tracasser terriblement. Mais maintenant j'y pense et me dis, eh bien, ce n'est pas étonnant. Ceci n'est pas notre royaume. Nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi les femmes, nos sœurs, n'ont-elles pas les cheveux courts et ne se mettent-elles pas de phare et ne dansent-elles pas le rock'n'roll, etc.? Les gens qui vont à n'importe quelle église pensent que cela est en ordre. Pourquoi? Ils sont américains. Ce sont des américains. Ils ont l'esprit américain. Nous ne sommes pas américains. Nous sommes chrétiens. Nous vivons. Notre esprit est d'un autre royaume. Si notre esprit était de ce royaume, alors nous adorerions avec ces choses, puis nous adorerions tous ces chants vulgaires et tout ce rock'n'roll. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Et notre trésor est d'en haut. Par conséquent, nous faisons route vers un royaume. Ceci n'est pas notre demeure. Nous ne faisons que séjourner ici, essayant de tirer d'autres citoyens des ténèbres. Nous irons dans une ville. Nous y tiendrons peut-être une grande campagne d'évangélisation, labourant pendant 1 semaine ou 10 jours pour une précieuse âme qui s'y trouvera, une seule qui s'y trouvera assise là. Vous direz peut-être, les réunions furent une grande réussite. 5 000 personnes sont venues à l'hôtel. Il se peut qu'il n'y en ait pas un seul de sauvé parmi eux. Pas un seul, voyez-vous. Et il peut y avoir, vous pouvez penser, il n'y a que 2 personnes qui sont venues à l'hôtel, mais l'une d'elles peut être un joyau. Nous pêchons seulement dans le ruisseau. Dieu amasse les poissons. Il sait qui est un poisson et qui n'en est pas. Ainsi, vous voyez, nous ne faisons que prêcher. Et souvenez-vous que vous faites la même chose dans ce tabernacle. Mais rappelez-vous toujours de ceci. Mes brebis connaissent ma voix. Et la voix de Dieu est sa parole. Je pensais l'autre jour à ces gens qui disent qu'il n'y a jamais eu une certaine dénomination qui dit que la guérison divine n'est pas juste. Que personne n'a jamais reçu de don de guérison divine si ce n'est Saint Paul et les 12 apôtres dans la chambre haute. Ils disent que seuls reçurent le don de guérison divine et c'est tout, que cela est réglé. Mais vous voyez, par cette merveilleuse charte que notre frère Willy ici a si bien dessinée pour nous, que ce petit filament a toujours été dans les âges de l'Église, tout le long. Je me demande ce que dit cette même dénomination de l'histoire de l'Église, d'Irénée et de Saint-Martin, et de tous ces martyrs qui, à travers l'âge, des centaines d'années après la mort des apôtres, parlèrent en langue et guérirent les malades, et ressuscitèrent les morts et accomplirent des miracles, l'Église entière. Qu'en est-il d'eux, si cela était seulement pour les apôtres? Vous voyez comme cela est borné? Ils n'ont pas d'intelligence spirituelle, c'est tout. Vous voyez? Ils sont aveugles, morts dans le péché et dans leur transgression. Péché veut dire incrédulité. Tout ce qui est dans l'incrédulité est péché. Si un homme possède un titre sabellan et DD2L, PhD LLD, et qu'il dit qu'il n'y a pas de guérison divine ou de baptême du Saint-Esprit, l'homme est mort dans le péché. Il a beau être capable d'expliquer toutes sortes de mystères de la Bible, mais sa vie même, son témoignage, prouve qu'il est mort. Il est mort dans le péché et les transgressions, parce qu'il est un pécheur. Le péché est l'incrédulité. N'importe qui devrait. Le péché, ce n'est pas de commettre l'adultère, et de fumer les cigarettes, et de danser, et de se comporter comme cela. Cela n'est pas le péché. Ce sont les attributs de l'incrédulité. Mais un croyant, peu importe qu'un homme ne boive pas, ne fume pas, ne fasse pas ces choses, qu'il ne dise aucune mauvaise parole, qu'il garde tous les commandements, il peut cependant être absolument aussi noir qu'un pécheur. S'il nie quoi que ce soit de la puissance de Dieu, il est un pécheur. Le mot péché signifie incrédulité. Voyez seulement si cela est vrai ou pas. Un incrédule dans la parole de Dieu est un pécheur. Il ne peut entrer dans ce royaume des cieux. Maintenant, j'ai donc pensé ce matin, le prenant sur moi-même, par la volonté du Seigneur, par le commandement du Saint-Esprit, de revenir au tabernacle et de vous garder peut-être 2 ou 3 heures. Mais je désire terminer le 4e chapitre de l'Apocalypse avant de m'en aller. J'espère que cela n'est pas ennuyant, mais que c'est glorieux pour vous. J'espère que c'est quelque chose qui vous fera du bien et qui vous aidera dans les jours à venir. Maintenant, peut-être que j'ai dit à Billy de venir ici ce matin et de distribuer des cartes de prière au cas où il y aurait des étrangers parmi nous, car nous partirons et je ne sais pas quand nous serons de retour. Dieu seul le sait. Et j'ai pensé que ce serait peut-être la dernière réunion et lorsqu'il m'appela vers 9 heures, il me dit, « Papa, il y a des gens pour lesquels tu dois prier. » Je leur ai demandé, dit-il, « Mais ce sont des gens qui viennent régulièrement à l'église. » Je dis, « Alors ne distribue aucune carte de prière, voyez-vous. » Je dis, « Parce que ce sont des gens, si nous prions pour les malades ce matin, nous les ferons monter et nous prierons pour eux. Mais s'il s'agit de personnes que nous connaissons, qui viennent au tabernacle, non, je désire que ce soit des étrangers. » Puis il y a quelques minutes, alors qu'il s'amena dans la pièce et qu'il m'y trouva, il dit, « Eh bien, j'ai distribué quelques cartes de prière. Il n'y en a que quelques-uns là-dedans qui j'ai donné des cartes de prière. Fais comme tu veux, me dit-il. » Je dis, « Eh bien, nous verrons comment ça ira avec le message et où nous en sommes, puis nous commencerons. » Il dit, « Plusieurs désiraient des cartes de prière, bien entendu. » Mais ce sont des gens qui sont là, dans l'église. Eh bien, nous savons que Dieu est Dieu. Et juste les choses qu'il fait. Vous savez, le téléphone sonne tout le temps. Des gens qui appellent pour différentes choses, pour des choses très banales parfois. Et comment Dieu répond aux prières. Je me demande si cette petite dame de New Albany ou son mari sont ici. L'autre soir, vers minuit, ils amenèrent ce petit bébé qui se mourait de pneumonie. Tiens, les voilà. Comment va le bébé? Un homme de la congrégation répond, il va bien. Bon, tant mieux, très bien. Laissez-moi simplement vous montrer. Voyez-vous que c'est quelque chose que vous ne sauriez pas. Cela cesse lorsque le Saint-Esprit parle. Fred Schottmann, notre précieux frère Fred, je l'ai entendu dire « Amen » tout à l'heure, mais je ne pouvais pas le repérer. Où est-il? Est-il ici? Ici, juste ici, frère Fred Schottmann. Et pour montrer comme c'est simple, il attendait la visite d'amis. Il s'agissait de notre frère Wells Evans, je pense, je ne sais pas. Ils avaient là une roulotte. Ils avaient fermé la porte et Fred perdit les clés. Ils cherchèrent partout, mais ne pouvaient pas les trouver nulle part. Et frère Wells était en chemin. Ainsi, le jour de son arrivée fut là, et il ne pouvait toujours pas trouver les clés nulle part. Ainsi, il appela simplement à la maison et dit, « Frère Branham, où se trouvent les clés? Où les trouverons-nous? » Cela étonne peut-être certains d'entre vous qu'un homme pose une pareille question, mais attendez un peu. Vous vous souvenez des fils de Jessé qui cherchaient les mules? Si j'avais un don sous la main, je l'apporterais et montrerais, je demanderais, je le donnerais au prophète et peut-être nous dirait-il où sont ces mules. Vous vous souvenez de cela? Et tandis qu'il était en chemin, ils rencontrèrent le prophète. Celui-ci dit, vous cherchez ces mules. Eh bien, retournez chez vous, dit-il, elles sont déjà revenues. Est-ce juste? Je priais. Fred fit quelques pas et ramassa les clés. Vous voyez cela? Frère Ed Dalton, où êtes-vous? Où est Ed Dalton? Je sais qu'il se trouve ici quelque part. Je l'ai vu tout à l'heure. Oh, il est là-bas derrière. Il m'a entendu dans l'intercom ou dans le haut-parleur. L'autre soir, je reçus un appel téléphonique. Frère Ed avait de sérieux ennuis. Je désirais l'aider. Non, dit-il. Je désire seulement que vous demandiez à Dieu. Je demandai donc au Seigneur de l'aider. Et le lendemain, sa femme appela. Quelqu'un était venu à son aide. Très bien. Est-ce juste, frère Ed? Voyez-vous, il est simplement Dieu. C'est tout. Il est simplement Dieu. Il va constamment d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre. Peu importe quel est le trouble, il est Dieu. Nous n'allons pas ici et là pour nous vanter de ces choses. Nous ne sommes pas censés faire cela. Que la main droite ou la main gauche ne sache pas ce que la droite fait. Nous en parlons entre nous. Mais nous ne le crions pas sur les toits, parce que c'est de l'amour propre, comme si Dieu pouvait seulement le faire pour une seule personne. Il le ferait pour quiconque croira en lui. C'est la conviction, la foi. Quoi que vous désiriez faire, quelles que soient vos pensées, soumettez cela à Dieu. Il répond à tout, n'est-ce pas vrai? Ainsi, il répond aux prières. Dieu est un Père qui répond aux prières. Or, c'est pourquoi j'ai pensé que pour terminer ces dernières réunions, comme nous le faisions, que nous aurions peut-être un moment pour le discernement à la fin de la réunion, Dieu voulant, et peut-être pendant la réunion, nous ignorons simplement ce qu'il va faire. Et c'est ainsi que j'aime les choses. Ne planifiez rien de particulier. Laissez-le simplement agir comme il veut. Maintenant, prenez le quatrième chapitre du livre de l'Apocalypse et arrêtez l'horloge. Un homme dit, frère Bill, note de l'éditeur, oui, puis-je prendre la parole? Oui, frère. Le frère se met à témoigner. Espace blanc sur la bande, note de l'éditeur. Assurément, je crois cela, je le crois parfaitement. Il y a ici frère Wells Evans. Je pense que c'est lui qui est assis là derrière. Laissez-moi. Tandis que nous allons à Apocalypse 4, ici, récemment, vous avez tous entendu parler et vous avez lu les journaux au sujet de cette bande de Louisville qui vole ses voitures. Ils amènent très rapidement quelque part, ils les amènent quelque part très rapidement dans le Kentucky. Et au Kentucky, vous n'avez pas besoin de posséder de titre. Ils vous en feront un au Kentucky. Ainsi, la seule chose que vous avez à faire, c'est de l'apporter là-bas et de la vendre. Ainsi, ils prennent ces voitures et les garent et les repeignent, puis les font sortir pour les vendre. Tout ce que vous devez posséder est le numéro de votre rue et ils vous feront un titre. Ainsi, ils enlèvent la voiture de la rue et l'enlèvent très vite et la rentrent dans un garage quelque part, changent simplement toute la chose de nouveau, voyez-vous, et la repeignent, etc., la ressortent et la vendent. Ils en font un commerce, et spécialement partout aux États-Unis, et cela est très courant dans le Kentucky. Je lisais un article là-dessus dans le journal ici, il n'y a pas longtemps. Eh bien, notre précieux frère Evans et sa famille, qui font tout le parcours en voiture depuis Macon, Georgie, jusqu'ici, chaque dimanche, pour entendre l'Évangile, et, oh, ce sont des amis fidèles et véritables. Puis il va à la cafétéria Miller, je ne fais pas de publicité pour la cafétéria Miller, mais je pense certainement qu'ils ont la meilleure nourriture dans le Kentucky, dans Louisville, Kentucky en tout cas. Maintenant, je ne parle pas de vos maisons privées où je suis allé manger. Je veux dire pour, vous savez, à l'extérieur. Et je mange là-bas aussi. Je peux nourrir ma famille meilleur marché qu'à la maison. C'est juste. Ainsi, je suis entré là-bas, et frère Evans entre et se prend quelque chose à manger, et parque sa voiture là-bas. Lorsqu'il sort, tous ses vêtements, et ceux de sa famille, etc., il n'avait plus ni voiture, ni rien. Tout cela était parti. Eh bien, le pauvre frère Evans est un homme comme chacun de nous. Il a un petit commerce là-bas, et il travaille sur les voitures. Il les achète détériorées et les répare. C'est un homme pauvre, et il dépense son argent en venant ici, car il croit en cette sorte d'évangile. Je prie que Dieu leur envoie un messager quelque part là-bas, pour les aider dans cette région. Or, frère Evans monta, et il ne savait que faire. Il avait averti la police, et celle-ci ne pouvait pas retrouver la voiture. Ainsi, il s'amena à la maison, et lui et frère Fred et les autres, nous nous assîmes dans la pièce et parlâmes de cela. Je dis, maintenant, c'est ainsi que nous faisons. Nous nous assoyons dans la pièce, nous voyons ce qui se passe, puis nous allons à Dieu. Ainsi donc, nous demandâmes au Seigneur de ramener l'homme qui avait la voiture, de lui faire demi-tour et de le renvoyer, peu importe ce qui c'était. Habituellement, il les rentre là-bas, autour du Bowling Green ou quelque part. Il les amène à l'écart du public, voyez-vous, afin qu'ils puissent, jusqu'à ce qu'il les ait repeintes et arrangées. C'était une jolie voiture, une station wagon, je pense. Est-ce bien cela, frère Evans? C'était une station wagon. Ainsi donc, ce qui arriva, nous priâmes, nous nous agenouillâmes et priâmes. Le Seigneur nous témoigna que tout allait très bien, tout était correct. Ainsi donc, la puissance du Seigneur vint au milieu de nous. Frère Evans sortit et partit, étant poussé d'aller dans une certaine direction. Il revient juste ici, dans Jeffersonville. La voiture était arrêtée dans Louisville. Voici que sa voiture se trouve là, avec juste assez d'essence pour la faire sortir d'ici. Et l'amener tout près du Bowling Green et de revenir. Ils sortirent de la voiture, l'arrêtèrent, laissèrent la clé à l'intérieur, s'en allèrent simplement et la laissèrent là, juste là, dans Jeffersonville, où ils pouvaient la trouver. Non pas Louisville, mais ici, dans Jeffersonville, ils la ramenèrent jusqu'ici. Vous savez, le Seigneur peut se faire obéir des oiseaux, il peut se faire obéir de l'homme, il peut se faire obéir de son ennemi. Oui, monsieur, il est Dieu. Voici donc sa voiture sans la moindre chose disparue. Son réservoir d'essence n'étant qu'à moitié vide. Cela l'avait presque amené chez Bowling Green et le Saint-Esprit a dû dire, faites demi-tour, montez de nouveau là-bas et ramenez la voiture à Jeffersonville. Placez-la juste ici sur la rue et parquez-la juste ici parce que je vais le faire passer exactement ici à cet endroit précis pour la trouver. Est-ce juste, frère Welch? C'est juste. Il est Dieu, il répond aux prières, frère Roy. Pour vous, frère Slaughter, c'est la même chose. Il a guéri votre petit chien. Je sais qu'il guérit, il répond aux prières. Il accomplit toujours des miracles. Il est toujours Dieu. Il a toujours été Dieu. Il sera toujours Dieu. Il est Dieu sur le toit. Quel est ce chant que le frère chante ici? Dieu dans la cuisine, là-bas sur la ferme, Dieu dans la voiture. Il est Dieu partout. Il est Dieu d'un bout à l'autre. Oh, combien c'est merveilleux. On se mettrait à presser à un moment donné sans entrer dans cette leçon. Très bien. Inclinons nos têtes juste un moment pour la prière. Bon Père Céleste, nous aimons tellement ta sainte parole que nos cœurs brûlent simplement au-dedans de nous. Alors que nous savons que ton esprit descend au milieu de nous et qu'il nous parle, nos cœurs s'élèvent et s'emparent de ta parole. Et cela nous donne un tel sentiment de bien-être, Seigneur. Et sachant que dans cette heure de ténèbres, où il y a tant de confusion, comme l'a dit le prophète, dans les derniers jours, il y aura une famine, quelque chose du genre, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la vraie parole de Dieu, et que les hommes voyageraient de l'est à l'ouest, du nord au sud, cherchant la vraie parole de Dieu, la parole. Qu'est-ce que la parole? Jésus est la parole. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. C'est de voir la manifestation de la véritable parole de Dieu rendue manifeste selon les Écritures et de la voir s'accomplir et comment les gens voyageraient et chercheraient et ne la trouveraient pas. Oh Dieu, nous sommes si heureux de l'avoir trouvée il y a des années. Il est si précieux à nos cœurs. Et de voir que nous ne sommes pas le moindrement troublés. Ô Dieu, tu as dit, ceux qui connaissent leur Dieu feront de grands exploits en ce jour-là. Et nous voici dans les derniers jours, voyant toutes les choses que Jésus a dit s'accomplir, étant rendues manifestes juste au milieu de nous. Les signes même, les prodiges et les miracles accomplis, l'accomplissant exactement comme il le fit. Comme il dit, comme il en était du temps de Sodome, ainsi en fera-t-il à l'avenir du Fils de l'homme. Et Seigneur, tu nous laisses nous élever par le Saint-Esprit jusqu'à cette parole et recevoir ces choses réelles, les rattachant au calvaire par ta parole. Et tu nous laisses voir qu'en lui nous avons la plénitude, et les richesses, et les bénédictions, et la gloire, et tout cela reviennent à lui qui est digne, et qui vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, et qui s'assit sur le trône lui-même, car il fut immolé depuis la fondation du monde. Nous parlons de lui ce matin, Père. Nous te prions de bénir nos cœurs. Laisse ton Saint-Esprit agir parmi nous et nous bénir, enrichir notre expérience, et guérir les maladies au milieu de nous, et nous donner la grâce de vaincre. Et Seigneur, comme je vais là-bas dans les champs de mission pour faire face à l'ennemi, que je puisse réaliser que je suis entouré chaque heure de la garnison de la prière. Oh, combien je dépends de cette garnison, alors que l'ennemi approche, mais je sais que la garnison tient bon, car des mères et des pères et des garçons et des filles, des chrétiens nés de nouveau, avec l'expérience d'un peuple destiné pour le ciel, sont sur leurs genoux priant, ô Dieu, accorde la délivrance. Et Père, nous te prions de nous laisser sortir dans les lignes de l'ennemi là-bas et de vaincre chaque précieuse âme qui attend. Accorde-le, Seigneur, et fais-les passer des ténèbres à la lumière, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, dans le quatrième chapitre du livre de l'Apocalypse, nous avons terminé au troisième chapitre. Essayons donc d'être assez respectueux et j'essaierai de ne pas vous garder trop longtemps. Mais dans ce troisième chapitre, l'Église monta comme type lorsque Jean fut enlevé. L'Église monta et à partir de ce moment-là, cela traite d'Israël jusqu'au retour de l'Église. Ne voyez-vous pas ce qu'il y en est? Les gens aujourd'hui, ils disent « Quelque chose de grand va secouer le monde entier » et ainsi de suite. Ce n'est pas scripturaire. Non, monsieur, la chose qui se produit ensuite est le départ de l'Église. Lisez les âges de l'Église. Vous voyez ce qu'il y en est. Maintenant, ces autres choses qui doivent arriver se passent durant le temps de la cérémonie des noces, lorsque l'Église est dans la gloire. Dieu revient en accomplissant de grands prodiges, des miracles sur le plan international, etc., par les Juifs. Cela ne s'applique pas du tout à l'Église. Et le troisième chapitre termine l'âge de l'Église, c'est juste. Et l'âge de l'Église sort avec une si petite minorité que nous voyons. Écoutez bien maintenant. J'ai relu ceci ce matin. Cela m'a presque brisé le cœur en voyant l'endroit où se trouve Christ et son attitude à la fin de l'âge de l'Église, du verset 20 à 22 d'Apocalypse 3. Pensez à cela. Christ, à la fin, où se trouve-t-il à la fin de l'âge de l'Église? En dehors de son Église, expulsé par les dénominations et les credos. Quelle est son attitude? Il essaie d'entrer de nouveau. Quelle triste condition! Puis nous voyons ici, après ces choses, il entendit une voix qui lui parlait. Qu'était-ce? L'Esprit qui laissa la terre. Après ces choses, cela commence au premier chapitre, au premier verset plutôt. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Apocalypse 4, 1. Après que l'Église est partie, alors une porte fut ouverte. Nous avons étudié tout cela, et nous avons vu que c'était Christ. Il était la porte. Et la même voix qui marchait au milieu des sept chandeliers d'or était aussi la même voix qu'il entendit au ciel qui disait « Monte ici !» Jean monta. Cela représentait l'Église qui va dans l'enlèvement. Jean fut ravi dans l'esprit. Il fut enlevé au ciel et vit d'avance toutes les choses que Dieu avait promises et ce qu'il dit aux disciples. Que t'importe si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Il vit la venue du Seigneur et ce qui arriverait. Il vit sur terre ce qui arriverait sur terre jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Puis il fut enlevé et il lui fut montré directement ce qui se passerait ensuite jusqu'après le millénium. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Maintenant, nous l'avons laissé dimanche dernier au quatrième chapitre et au quatrième verset. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Maintenant, nous avons vu que ceux-ci étaient des vieillards. Un vieillard ne s'applique jamais à un ange ou à un autre être. C'est un être humain, des vieillards. Car ils, les trônes, les couronnes, les dominations ne s'appliquent jamais à des anges. Mais les couronnes et les trônes et ainsi de suite appartiennent à des êtres humains. Et ces vieillards étaient couronnés et revêtus, et ils étaient assis sur des trônes. Et nous voyons dans d'autres passages des Écritures que c'étaient les 12 apôtres et les 12 patriarches. 24 d'entre eux, ce qui signifie 24, 12 apôtres, 12 patriarches. Et nous voyons même la ville qui descend du ciel d'auprès de Dieu, après que la terre aura explosé et qu'elle aura volé en éclats, et qu'il ne restera rien d'autre sur la terre que des cendres volcaniques, c'est tout ce qu'il restera. Il n'y aura plus de mer. La mer tarira. Comme je le disais à quelqu'un hier soir, ou hier quelque part, la terre se tait jadis dans une position droite, comme ceci, autour du soleil, recevant une chaleur égale de haut en bas, au nord, dans les champs de glace britanniques. Vous pouvez creuser à coups de mine jusqu'à 500 pieds et découvrir des palmiers. Cela arriva soudainement et les congela, comme la congélation que nous avons aujourd'hui, comme lorsque vous déshydratez, etc., et que votre congélateur et votre frigorifique gardent les fraises et ces choses pendant des années et des années à venir, voyez-vous? Il en était exactement ainsi en ce temps-là. Rapidement vint une destruction antidiluvienne, et cela submergea la terre entière. À ce moment-là, les puissances atomiques la firent dévier de son orbite. Cela fut la ciselée, et voilà où elle en est, voyez-vous? Creusez, et vous pouvez les trouver au nord, autour des zones arctiques, des palmiers, etc. Cela montre que cela fut merveilleusement habité, bien disposé, mais maintenant cela est renversé. Maintenant, c'est là où je pense que Dieu se procura cette eau, au commencement de la Genèse. Genèse 1. La terre était informée vide, et il y avait de l'eau à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux et dit « Que la lumière soit !» Dieu sépara alors le sec de l'eau, ce qui forma la terre. Mais la terre entière était recouverte. Maintenant, ce qu'il fit, il, à travers l'atmosphère, l'atmosphère est, les atmosphères sont remplies d'hydrogène et d'oxygène, etc. Alors, il enleva simplement de dessus la terre et sépara cela. Il n'y avait pas de mer sur la terre à ce moment-là. Dieu arrosa la terre. Il ne pleuvait même pas. Il l'arrosa par les sources et ses choses, l'irrigation. Alors, lorsque l'homme la secoua hors de son orbite et qu'elle s'en alla d'un côté, qu'arriva-t-il? Cela la rejeta dans la chaleur, ici en bas, et dans le froid, ici en haut. Et le chaud et le froid, qu'est-ce que cela accumule? Passez vos mains ici sur ces fenêtres, en ce moment même. Il fait chaud ici dedans et froid à l'extérieur. Voyez-vous, la buée. Et la pluie n'est rien d'autre que de la buée, de la transpiration. Et l'eau est des cendres. Ainsi donc, quand cela, j'aime ce chant. Tu as posé ta main, précieux Seigneur, sur la prairie. Tu as posé ta merveilleuse main sur les champs. Seigneur, tu as fait pleuvoir la fontaine. Tu as élevé la montagne. Ô Seigneur, garde ta précieuse main sur moi. Tu as créé les nuages, formé les nuages qui donnent la pluie. De la pluie, tu as fait la mer. De la mer, tu as apporté les nuages pour nous donner la vie en abondance. Tu tiens la terre et les cieux sous ton contrôle. Seigneur, oh, veuille garder ta précieuse main sur moi. Oh, comme il est grand. Oui, le Dieu du ciel. Alors, dans cette grande période, elle est renversée comme ceci maintenant. Et il nous a fait une promesse. Non plus l'eau, mais le feu, cette fois-ci. Au lieu de la jeter, il resserre la terre loin du soleil, bien entendu. Elle se refroidit. Si vous la projetez dans le soleil, elle brûlera. Et de même qu'il la détruisit par l'eau et qu'il fit paraître l'arc dans le ciel, disant qu'il ne le ferait plus, maintenant il a promis qu'il la brûlerait. Vous en arrivez là où tout le péché et toute gloire et toute souillure. Il n'y a pas longtemps, je me promenais à cheval dans les prairies. Étant petit gars, je pensais, je prenais mes livres d'histoire et de géographie et je pensais aux grandes plaines de l'Ouest. Un jour, je dis, je vivrai paisiblement et calmement là où il n'y a pas de péché, et je parcourrai les champs et je chasserai comme l'Indien. J'y vivrai paisiblement tous les jours de ma vie. Mais maintenant, c'est l'homme blanc est passé par là. Partout où va l'homme blanc, le péché le suit. C'est le plus grand meurtrier et le plus grand tueur de tous les peuples de la terre. L'homme blanc, c'est le plus grand renégat de toutes les races. Ici, il n'y a pas longtemps dans le journal, frère Tom d'Afrique, j'ai vu un article dans le journal il y a 2 semaines, je crois, et il disait, si on permet encore aux Américains d'aller en Afrique, dans 10 ans, les grands lions et les éléphants d'Afrique seront complètement exterminés. Les renégats tirent partout où ils peuvent. Il y avait une photo de 2 gros mâles essayant de tenir un mâle blessé. On dirait que des larmes leur coulaient des yeux. Ils ne voulaient pas le... Ils étaient des mâles. Ils ne voulaient pas que les femelles meurent. Et chacun le tenant par le flanc, comme ceci, l'empêchait de tomber par terre. Et ils les mettent simplement en pièces. Un homme qui tire sur n'importe quoi comme cela ne mérite pas d'avoir un fusil à la main. C'est juste. Vous n'avez pas assez de jugeote pour le manier. Maintenant, il y a quelques années, j'essayais de faire rentrer un troupeau d'élans chez mon bon ami, frère Jean et Robertson. Et ces gens là-bas, où je servais de guide dans le Colorado, savaient que nous avions un beau troupeau. Jeff et moi les avions eus là-bas pendant des années et des années, à peu près 80 élans. Et j'ai entendu dire qu'ils laissaient certains de ces bureaucrates de Denver venir là en salopette, les jambes lassées. Vous parlez de chasseurs. Ah, voici qu'ils s'amenèrent, tout un groupe en Jeep, etc., se retrouvant là dans notre territoire. Et je conduisais ces élans dans la montagne, derrière eux, à environ 1 mille ou 2. Et ils assemblaient les détails. Vous devez les garder distancés, les gros taureaux, etc. Sinon, vous dispersez votre troupeau. C'est comme l'élevage ou n'importe quoi. La vie animale devrait être ainsi pour nous. Ce n'est pas une cible. Si vous désirez tirer sur une cible, ils ont des champs de tir ici. C'est juste. C'est une honte de massacrer les animaux comme cela. C'est fêteux. C'est un sacrilège. Et je comptais 123 balles qui avaient été tirées des mitrailleuses tirant cela de leurs épaules. Et le matin suivant, frère Banksewood, ici, et moi, allâmes sur la montagne. Et je comptais 19 lits de sang. Ils ne connaissaient rien à la chasse. Vous pouvez tirer sur un gros animal comme cela. Vous pouvez le blesser assez profondément pour le tuer. Ils déchargèrent simplement, bang, 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 les tirant l'un après l'autre. Eh bien, ils mourront. Une fois que la fièvre s'installe en eux, et vous voyez qu'ils ne sont pas bons, ils se décomposent aussitôt. Et les charognards, les coyotes, etc., les dévorent. 19 lits de sang. Des gros taureaux, avec des sabots gros comme cela, et le sang ayant jailli jusqu'à deux pieds de ces trous qu'ils avaient faits comme cela avec leurs fusils. Ils ne devraient pas permettre à un renégat comme cela d'avoir un fusil à la main. C'est juste, il n'a pas de visotte pour manier un fusil. Oh, c'est terrible. C'est péché de le faire comme cela. C'est affreux, mais c'est l'Américain. Le Canada, vous, précieux amis du Canada, si l'Amérique continue ainsi, le Canada deviendra aussi bas que l'Amérique, finalement. Vous vous retrouvez près des frontières canadiennes et vous avez l'atmosphère américaine. Cette Amérique est la prostituée des nations. C'est exactement ce qu'elle est. Et elle va devenir pire que jamais. Elle arrive à sa fin. La Bible parle de sa ruine. Comment elle deviendra l'Amérique. Basse, pourrie, sale, dégoûtante. C'est parfaitement juste. Elle a été une grande nation, elle a porté le message de l'Évangile. Qu'est-ce qui l'a rendue ainsi? C'est qu'elle a rejeté le message de l'Évangile, et elle a rejeté la vérité. Elle est horrible. Cela va lui arriver, ne vous inquiétez pas. Je l'ai vu dans la vision, c'est ainsi dit le Seigneur. Cela s'en vient, elle va payer pour ses péchés. Jadis, lorsque l'Amérique était l'Amérique, c'était une grande nation. La plus grande que le monde ait jamais connue depuis Israël, l'Amérique. Mais elle s'est certainement polluée maintenant. Elle a rejeté le message. Elle n'a plus rien d'autre que... Maintenant, elle sait... Vous pouvez voir où elle en est aujourd'hui. Tout le monde le sait. La dernière élection montre quelle est sa position spirituelle. Non, elle ne le sait pas. Maintenant, ces vieillards assis sur le trône avec leur couronne... Nous allons commencer au verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Oh, j'aime ceci, pas vous? Oh, je sens simplement que mon habit me fait, vous savez. Je veux dire dans un habit spirituel, bien sûr, vous savez. Très bien. Du trône. Parlons maintenant de ce trône quelques minutes. Ce n'était pas un trône de miséricorde. Le trône de miséricorde n'est plus. Il n'y a plus de miséricorde. La miséricorde ne s'y trouve pas. Comment le siège de jugement sera-t-il le siège de jugement de Christ? Le siège de jugement, le jugement du trône blanc. Y aura-t-il de la miséricorde à ce moment-là? Il n'y a pas un seul brin de miséricorde qui sera accordé. Au trône du jugement, vous pourriez crier pitié jusqu'à vous épuiser de crier, et vous feriez aussi bien de crier dans le vide, car il n'y aura plus de miséricorde. Maintenant, c'est le jour de miséricorde. Reportons-nous juste un peu à l'Ancien Testament, et voyons ce qu'est la miséricorde. Revenons-y pour voir ce qui arriva à ce trône. Ce trône, bien sûr, est le siège du jugement. Et la raison pour laquelle il y a miséricorde aujourd'hui, c'est que le siège du jugement, le siège de miséricorde, est aspergé d'une expiation, le sang. Et aussi longtemps que le sang est sur le siège de jugement, alors ce n'est plus le jugement, c'est la miséricorde, parce que quelque chose est mort pour épargner du jugement. Si vous le voyez, dites Amen. La congrégation dit Amen. Aussi longtemps que le sang est sur le siège de miséricorde, cela montre que quelque chose est mort pour retenir le jugement. Mais lorsque l'Église sera enlevée, le Vierge miséricorde deviendra un siège jugement. Et ici, vous savez, dans le Nouveau Testament aussi, et le sanctuaire, c'est là où le juge, dans le sanctuaire, le juge sur le siège dans le sanctuaire. Maintenant, ce siège de jugement dans le sanctuaire devient rempli de fumée. Qu'est-ce? Comme sur le mont Sinaï, le jugement, la miséricorde avait laissé le trône de Dieu. Dieu jugera le monde sans miséricorde. Combien savent-là? Il ne reconnaîtra qu'une seule chose en ce jour-là. Qu'est-ce? Le sang. C'est la seule chose qui apaisa un Dieu courroucé. Adam et Ève se firent un aussi bon tablier que le pourrait n'importe quel méthodiste, baptiste, presbytérien ou pentecôtiste. Cela couvrit leur nudité. Mais Dieu pouvait voir à travers cela. Ainsi, il tua quelque chose et prit des peaux mortes, des peaux d'animal morts et couvrit leur nudité. Le sang dut prendre sa place. Cela retint sa colère. Il vit le sang et s'abstint de sa colère, parce que quelque chose avait répandu sa vie. Oh Dieu, pensez à cela. La seule chose qui retiendra Dieu est le sang. Et il n'y a qu'un seul sang qui le retiendra, et c'est celui de son propre fils. Lorsqu'il verra que c'est le sang de son propre fils, il s'abstiendra, car c'est le don que Dieu a donné à son fils pour racheter ceux qu'il a préconnus, et cela retient Dieu de son jugement. Mais lorsque ce sang sera enlevé, et que tous ceux qu'il a préconnus auront été appelés dans le précieux corps, et que son église aura été prête et enlevée, alors la colère de Dieu sera sur les gens. Oh, frère, ne désirez jamais vous tenir là. Que je me tienne devant une mitrailleuse, que je sois coupé en morceaux, que je sois scié pouce par pouce, quoi qu'il arrive, comme le serment des chevaliers collants, qu'il m'ouvre le ventre et il brûle du soufre à l'intérieur de moi, et que mes bras et mes jambes soient coupés ou quoi que ce soit, mais que je ne me tienne jamais devant Dieu au jugement de ce trône blanc. Oh, laissez-moi prendre ce trône ici, devant le siège de Christ, et accepter son sang. Seigneur, je n'apporte rien dans mes bras. Je ne connais aucune autre source que le sang de Jésus. C'est tout ce que je connais. C'est mon seul espoir et mon seul soutien. Rien d'autre que le sang de Jésus. Ce n'est pas étonnant que Dupuis fut rejeté pour son sang. Lorsqu'il était un chrétien, un solide chrétien, les gens ne voulaient pas acheter ses sangs. Une fois il dit, j'en ai créé un qu'ils accepteront un jour. Les gens désiraient quelque chose de plus moderne comme sang religieux. Alors un jour, le Saint-Esprit l'inspira. Il saisit sa plume et écrivit, que tous acclament la puissance du nom de Jésus. Que les anges se prosternent jusqu'à terre. Apportez le diadème royal et couronnez-le Seigneur des Seigneurs. Car sur Christ, le rocher solide, je me tiens. Tous les autres terrains sont du sable mouvant. Tous les autres terrains sont du sable mouvant. Que ce soit l'Église, que ce soit un ami, que ce soit un ennemi, que ce soit un pays, que ce soit la richesse, que ce soit la pauvreté, que ce soit bon ou quoi que ce soit, tous les autres terrains sont du sable mouvant. Une chose est certaine, tout cela passera. Mais sur Christ, ce rocher solide, je me tiens. Tous les autres terrains sont du sable mouvant, ne l'oubliez pas. Allons dans Lévitique 16 et lisons au commencement, tout à fait au commencement de la Bible dans les lois lévitiques. Voyons ici Lévitique chapitre 16. Et commençons au verset 14 du chapitre 16. Oh, j'aime m'arrêter sur ces choses et les expliquer. Lévitique 16, 14. Il prendra du sang du taureau et fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire. Sur le devant du propitiatoire. Regardez, nous allons voir cela tout à l'heure. Vers l'Orient. N'oubliez pas ce mot Orient. D'où Jésus viendra-t-il? De l'Orient, dans une nuée de gloire. Où le soleil se lève-t-il? À l'Orient. Où le Fils se lèvera-t-il? À l'Orient. Dans quelle direction était placé le siège de miséricorde? Dans la direction de l'Orient.
Pourquoi vous êtes-tu fait asseoir comme ceci vers l'Orient? Pourquoi? L'autel est vers l'Orient. Nous le verrons un peu plus loin, combien cela est magnifique. Je vais le dessiner. J'ai demandé à tous ceux que je pouvais d'apporter du papier, etc., pour dessiner ces cartes dans quelques minutes. Très bien. Il fera l'aspersion vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Oh, n'est-ce pas magnifique? 7 fois vers l'Orient. 15, les 7 âges de l'Église seront couverts par le sang. Alléluia! Le sang de Jésus-Christ est simplement suffisant, hier, aujourd'hui, éternellement, et pour chaque âge, pour sauver chaque pécheur, guérir chaque maladie, accomplir chaque miracle, chaque signe. 7 fois. Tout à fait au commencement de l'Ancien Testament, 1490 ans avant la venue de Christ. Pensez à cela. Le symbole 7 fois. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il sera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Qu'est-ce? Le siège de miséricorde. Où sont-ils donc? Et à l'intérieur de l'arche, il y avait quoi? La loi. Et la loi, transgresser un commandement, c'était de mourir sans miséricorde. Mais étant donné que vous pouviez recevoir miséricorde, le sang devait reposer sur l'autel pour asperger le siège de miséricorde. Et le siège de miséricorde est l'autel où vous agenouillez et demandez miséricorde. Que Dieu nous garde d'enlever dans nos églises l'autel à l'ancienne mode, où les hommes peuvent s'agenouiller et implorer la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde est riche. Elle coule librement du sang du Seigneur Jésus. En ce moment aussi, c'est la miséricorde. C'est le siège de miséricorde. Mais si vous remarquez ici, il n'y avait pas de siège de miséricorde, car il y avait des éclairs et des tonnerres et des voix. Il n'y a pas d'éclairs ni de tonnerres à la miséricorde. C'est le jugement. Allons donc dans Exode, chapitre 19 de l'Exode et verset 16. Exode, chapitre 19, et commençons au verset 16. Et il arriva, écoutez ce que, lorsque Dieu monta sur le mont Sinaï, et il arriva le troisième jour, quand le matin fut venu, qu'il y eut des tonnerres et des éclairs, et une étincelle sur la montagne, et un son de trompette très fort. Quelle est la voix de la trompette? L'archange. Et tout le peuple, écoutez, tout le peuple qui était dans le camp trembla. Jugement! Ouf! Ils avaient marché jusque-là, et Dieu leur avait donné la grâce pour voyager, mais ils avaient demandé une loi. Dieu désirait qu'ils soient interdénominationnels. Eux désiraient faire une dénomination à partir de cela, quelque chose sur quoi ils puissent argumenter. Au lieu de suivre simplement Dieu et de vivre sous sa juridiction, sous sa puissance, Dieu avait pourvu d'un prophète, la grâce avait pourvu d'une expiation, un agneau, la grâce avait pourvu de toutes ces choses, et cependant, il désirait le jugement. Il désirait pouvoir faire quelque chose. Dieu dit, rassemble-les et laisse-leur connaître ce que c'est. Je leur montrerai ce que c'est. Lisez, écoutez, et la voix de la trompette retentit de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'elle secoue la terre. Et vous voyez ce qu'est le jugement? Je ne désire pas cela. Donnez-moi la miséricorde. Et le frère Fred dit, frère Branham, notre éditeur, oui, il demande à frère Branham son dernier verset de référence, notre éditeur. C'était Exode, le 19e chapitre et le 16e verset, frère Fred. Exode 19, 16. Maintenant, remarquez le 17e verset. Et Moïse fit sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu. Oh là là, je veux le rencontrer dans la paix, pas comme cela. et ils se perdent au pied de la montagne. Souvenez-vous, cette montagne avait des limites tout alentour. Même une vache qui touchait cette montagne devait mourir immédiatement. Elle ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Et Dieu et Moïse amena le peuple. Maintenant, le verset 18, le verset suivant. Et toute la montagne de Sinaï fumait, parce que l'Éternel descendit en feu sur elle, fumant et brûlant simplement comme une fournaise. Comment descendit-il? Non pas dans sa séquina de la gloire, mais dans la colère de ses jugements. Et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fort. Frère, je ne veux pas être là. Et comme le son de la trompette se renforçait de plus en plus, Moïse parla et Dieu lui répondit par une voix. Moïse parla, pas le peuple, ils étaient tous tremblants. Et l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. Et l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. Et l'Éternel dit à Moïse, descends, avertis solennellement le peuple, de peur qu'il ne rompe les barrières pour monter vers l'Éternel, pour voir et qu'un grand nombre d'entre eux ne tombe. Espace blanc sur la bande, note de l'église. Les gens qui s'assoient à l'arrière de l'église et qui rient de quelqu'un qui parle en langue ou danse dans l'esprit, ils sont finis. Ils ont blasphémé le Saint-Esprit. Ils sont scellés pour toujours. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ne regardez pas cela. Tenez-vous-en éloigné ou acceptez-le. Nous ferions mieux de laisser ce verset. Continuez à lire le reste et voyez ce que Dieu dit. Et le peuple dit, ô Moïse, parle-nous, que Dieu ne nous parle plus. Nous n'aurions jamais dû demander ceci. Voyez-vous? Parle-nous, Moïse. Si Dieu parle, nous mourrons tous. Voyez-vous? Dieu avait fait une expiation. Maintenant, la voix du trône. Remarquez ici de ce trône. Devant le trône, il y avait sept étoiles. La voix des étoiles. Des voix, voyez-vous? Nous voyons qu'il y en avait plus ici dans l'Apocalypse 4 ou 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Non pas une voix, des voix, pluriel. Qu'est-ce? Dieu parlant à l'Église, se reflétant à travers les sept esprits. Lorsque le véritable oint de Dieu parle, c'est la voix de Dieu. Rejeter cela, c'est ôter le sang de Dieu. Voyez-vous? Des voix, la voix des sept âges de l'Église, ici dans le coin. Les voix parlant avec le tonnerre et les éclairs. Aujourd'hui, ils sont si, ils disent, eh bien, nous ne croyons pas qu'il faille parler de l'enfer à la chair. Oh, miséricorde! Ah! Nous avons besoin d'hommes de Dieu, d'hommes qui ne se retiendront pas. Tout le monde ne peut pas être prédicateur, mais vous avez une voix. Et même si vous ne pouvez pas prêcher aux gens un sermon, si vous êtes un prédicateur, vous êtes appelé à prêcher à la chair. Sinon, vous êtes quand même un prédicateur. Mais vivez un sermon devant les gens. Que votre sermon soit vécu. Et c'est la voix de Dieu qui blâmera ceux qui l'ont rejeté. Ils diront, personne n'a aucun reproche à faire sur la vie de cet homme ou de cette femme. Ils sont doux, vivants. Si jamais il y a eu un homme de Dieu, c'est bien celui-ci. Ou une femme de Dieu, c'est celle-ci. Voyez-vous, vivez vos sermons. N'essayez pas de leur prêcher si vous n'êtes pas appelé à être prédicateur. Cela vous apportera la confusion de toute façon. Et vous serez tout embrouillé, et vous embrouillerez les gens, et vous ne ferez pas. Eh bien, vous les ruinerez, et vous vous ruinerez vous-même aussi. Vivez simplement votre sermon. Le prédicateur est appelé à prêcher le sien, et à le vivre aussi. Si vous ne pouvez pas le vivre, alors cessez de le prêcher. Mais vous êtes censé vivre vos sermons. Très bien. Il y avait des voix. Oh, combien nous avons besoin dans Jeffersonville de milliers de voix vécues. Le tonnerre de Dieu sonnant dans la douceur et la sainteté, dans la pureté, des vies sans souillure, marchant sur la terre aujourd'hui, sans tache. Oui, monsieur, de véritables chrétiens, c'est le tonnerre contre l'ennemi. Peu importe pour le diable combien fort vous pouvez crier, peu lui importe combien vous pouvez sauter ou faire ceci ou pousser les cris, mais ce qui le blesse, c'est de voir cette vie sanctifiée, cette vie sainte et consacrée à Dieu. Vous dites n'importe quoi à cette personne, vous la traitez de n'importe quoi, elle est aussi douce qu'elle peut l'être et continue son chemin. Oh là là, cela le démente. C'est le tonnerre qui fait trembler le diable. Par exemple, vous dites, eh bien, s'il pouvait prêcher comme Billy Graham ou Oral Roberts, ou quelqu'un, un grand prédicateur influent, il serait... Oh non! Parfois le diable se moque simplement de cela. Il n'y prête pas la moindre attention. Ayez toute la théologie que vous désirez et tout l'entraînement de séminaire, et le diable s'assoit simplement derrière et en rit. Mais lorsqu'il voit cette vie, regardez ses disciples ce jour-là, avec cet enfant furieux qui avait l'épilepsie. Il disait, sors de lui, démon, sors de lui, démon, sors de lui, démon. Le diable, étant assis là, leur dit, maintenant, ne vous rendez-vous pas ridicule. Vous voyez ce que vous faites, et vous, Jésus vous a dit, il vous a commissionné d'aller me chasser, et il n'y en a pas un de vous qui puisse le faire. Mais, frère, lorsqu'ils le virent venir, c'est quelqu'un qui s'avançait, marchant tranquillement. Oh là là, lui n'avait rien à dire. Immédiatement, ce démon-là eut peur. Il savait qu'il devait partir, car voilà que venait une vie. Pas seulement un serment, mais une vie. Il dit, sors de lui. Oh là là, ce qui sort. Paisiblement, il savait de quoi il parlait. Il savait ce qu'il faisait. Maintenant, des voix. Les voix des sept trompettes. Il y avait les voix des sept étoiles, sept messagers. Mais maintenant, remarquez ici. Et sept lampes devant le trône, qui sont les sept esprits de Dieu. Sept lampes, faisons ce qui dessin ici. Le trône, le lieu saint, la congrégation. Et juste ici, il y avait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept étoiles, sept lampes, sept messagers, sept esprits. Tout cela ne veut pas dire que Dieu est en sept esprits, mais sept manifestations du même esprit. Où est le Saint-Esprit? Ici, au trône, reflétant sa lumière dans chaque âge de l'Église. Cet âge d'Église reflète ceci. Ici, les voix de Dieu, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez-vous, sept, il y avait des voix, et sept lances de feu, sept esprits qui sont les sept esprits de Dieu. Vous souvenez-vous, il y a quelques dimanches, nous avons expliqué cela, le grand diamant, mais il est coupé de plusieurs façons pour en refléter le feu et les lumières. C'est ainsi que Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu, Apocalypse 1, n'est-ce pas vrai? Alors, quand Dieu s'est-il créé, il est le commencement de la création de Dieu, et Dieu est éternel. Est-ce juste? Mais lorsque Dieu s'est créé, lorsqu'un petit bébé s'est conçu dans le sein d'une mère, d'une vierge, et elle s'est mise à développer ses cellules en elle pour amener ce petit bébé qui était le commencement de la création de Dieu, car Dieu fit ses fers et habita parmi nous et devint Emmanuel, Dieu avec nous, le commencement de la création de Dieu. Alors dans ce grand joyau qui vint de la poussière, car il fut fait de poussière, n'est-ce pas vrai? Il mangea comme moi et comme vous ce qui est de la poussière du corps. Il devint calcium, potasse, pétrole, lumière cosmique. Mais en lui demeurait la lumière éternelle. Il n'est pas étonnant que les mages dirent à l'étoile, guide-nous vers ta lumière parfaite. Il reflétait simplement la lumière d'une lumière parfaite. Et il était la lumière parfaite de Dieu, le commencement de la création de Dieu. Comment fut-il capable de se refléter lui-même à ces étoiles de la terre, après que les rois mages l'eurent vu dans le ciel, et qu'ils devinrent des esprits exerçant un ministère ici sur la terre? Il fut blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que faisait-il? il se reflétait. N'importe quel homme qui affirme être un serviteur de Dieu et qui nie la guérison divine et sa puissance ne reçoit pas sa lumière de ce diamant, ne reçoit pas sa lumière de ce trône-là, car cela le reflète le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous pouvez voir les 7 étoiles et les 7 âges de l'Église. Oh, gloire à Dieu! Je pense qu'il est convenable pour un ministre d'adorer Dieu à la terre, avec des actions de grâce et des louanges et l'honneur et la puissance. Oh, combien cela est réel! Combien cela réjouit mon âme, tellement que je sens que je pourrais crier et courir et sauter aussi haut que je pourrais, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me changea de ce que j'étais. Je ne suis pas ce que je devrais être, et je ne suis pas ce que je voudrais être, mais je sais que j'ai été changé de ce que j'étais. Quelque chose est arrivé, quelque chose s'est produit, et je me tiens ici, et je vois cette parole éternelle qui a résisté à sa tempête. Lorsqu'ils essayèrent de brûler les Bibles et ainsi de suite, cette parole continua à vivre quand même, car elle dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Au nord, ici, près de Chicago, une Bible repose sur la terre d'une église. Il y a très longtemps, avant la Première Guerre mondiale, un missionnaire avait un homme qui convertit, et il désirait donner cette Bible à un missionnaire. Il dit, je ne peux pas te donner celle-ci, ma mère m'a donné cette Bible. Il dit, lorsque j'arriverai à la maison, je t'en enverrai une. Il retraversa l'océan, et un sous-marin allemand fit exploser le bateau. Ils n'en retrouvèrent pas un seul morceau. Et 2 ans plus tard, là-bas sur la côte, ils virent une boîte qui flottait. Certains pensèrent qu'il pouvait s'agir de quelque chose qui avait été jeté à l'eau. Ainsi, ils ramassèrent la boîte et l'ouvrirent. 2 hommes qui marchaient le long du rivage. Et là-dedans, la seule chose qui avait survécu, c'était cette Bible qui renvoyait aux missionnaires. Elle repose ici, aujourd'hui, près de Chicago, sur une terre, dans une église méthodiste. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Durant la période de l'inondation, ici, en 1937, cette vieille petite église, alors que les planchers de terre battus, etc., tout ce qui était à l'intérieur, nous pouvions nous promener au-dessus de celle-ci en canot à l'aviron. L'inondation monta, et ce soir-là, lorsque je prêchais l'évangile, et que j'avais laissé ma Bible ouverte sur la terre, et que je revins à la maison, prédisant que cette inondation viendrait, je dis, j'ai vu une mesure de 22 pieds au-dessus de la rive Spring, ici. Le vieux frère Jim Whitehart et les autres se moquèrent de moi. Et vous vous souvenez de cela, frère George? Je dis, il dit, oh, Billy, en 1884, il y eut seulement environ 6 pouces sur la rive Spring. Je répondis, j'ai vu un homme descendre des cieux et prendre une canne à mesurer et la planter là sur la rue Spring en disant 22 pieds. Il dit, tu es simplement excité. Je répondis, je ne suis pas excité, c'est ainsi dit le Seigneur. Demandez-leur combien il y eut de pieds au-dessus de la rue Spring. 22 pieds au pouce, exactement. Et cette vieille Bible avec laquelle j'avais prêché ce soir-là, il se mit à pleuvoir, l'inondation fit rage, etc. Et cette vieille église, les sièges montèrent droit au plafond. La Bible monta littéralement jusqu'au plafond, flottant partout, avec toute cette eau qui la faisait monter. La chair monta droit en haut, puis tout cela redescendit jusqu'à terre. Et chaque siège retomba exactement à sa place. Et la Bible se posa exactement à la même place, et avec toute cette eau, est toujours ouverte au même chapitre, à la même place. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Comment cette Bible flotta-t-elle dans cette eau salée pendant 2 ans, sans même que le texte en soit taché? Les paroles de Dieu sont vraies. Amen. Je me souviens après cela, le vieux frère Dean Whitehart était si satisfait de cela, que chaque fois qu'il avait mal à son bras, il fut atteint d'un certain mal lorsqu'il eut environ 75 ans. Il eut le rhumatisme. La douleur se faisait sentir ici. Il prenait rapidement la Bible, l'ouvrait, la posait là-dessus. Puis une autre douleur se faisait sentir ici. J'allais le voir un jour. Et il avait tant de Bibles sur lui que je ne pouvais plus voir Frère Jim. Il y avait des bibles partout sur son corps. Il dit, c'est la promesse de Dieu. C'est cela, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Vous vous souvenez, le vieil homme avait l'habitude de venir me voir. Aucun des siens n'est ici, je pense. Et je l'aidais un peu, vous savez, car il était vieux et avait besoin d'argent. Et il venait me voir. Un jour que je partais pour le Canada, je me tournais, je passais simplement la porte et il dit, « Billy, mon fils, l'un de ces jours tu reviendras et le vieil oncle Jim ne se traînera plus dans la rue ici. » Ce fut la dernière fois. Arrivé au Canada, je reçus un télégramme. Il venait de mourir là-bas dans les bras de Sir Morgan. Et il eut une crise cardiaque et ils le dépêchèrent à l'hôpital. Il la regarda et expira. Sœur Mardi est-elle ici ce matin? Elle y est habituellement, vous le savez tous. C'est l'un des grands cas de cancer où là-bas, à l'hôpital Baptiste, elle était morte depuis 17 ans selon les dossiers de la clinique médicale qui disait qu'elle se mourait du cancer il y a 17 ans. Elle demeure à 412 avenue Noblot, étant infirmière dans un hôpital près d'ici. Oh, grâce étonnante, combien le son en est doux. Jinton Robertson, un avocat de Louisville, nous connaissons tous Jinton. C'est ce qui l'amena à croire en ce message. Il se rendit là-bas, son père est l'un des directeurs du service hospitalier là-bas, et sentit si c'était vrai qu'elle se mourut du cancer et qu'elle fut abandonnée et renvoyée à la maison. Ceux-ci pensaient qu'autant qu'ils le savaient, elle était déjà morte. Or, son père fit des recherches, et cela est la vérité. Jinton dit, c'est un mensonge, elle est assise juste ici aujourd'hui, je peux te conduire vers elle. Oh, oh, il est un Dieu réel, n'est-ce pas? Je suis si heureux qu'il puisse passer par-dessus nos erreurs, pas vous? Cela nous fait l'aimer de tout notre cœur. Des trônes, des éclairs, qu'est-ce? Cette lampe ou cette étoile, appelée cet esprit, signifiant cette manifestation du Saint-Esprit des sept âges de l'Église aux sept sièges de miséricorde pour les gens. Les voici, sept sièges de miséricorde, sept sièges, sept églises, sept étoiles, sept manifestations, cet esprit, sept lampes. Oh là là, Dieu est parfait. Que cela soit dans la pneumatologie de la Bible, la pneumatologie de la Bible est la chose la plus parfaite qu'il y ait sur terre. Vous ne pouvez trouver aucune défectuosité de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'en est pas comme dans une autre œuvre littéraire. Vous pouvez trouver une défectuosité avant de lire trois versets. Il n'en est pas ainsi dans la Bible. Ils ont essayé pendant plus de 200 ans d'ajouter une phrase à la prière du Seigneur ou d'en retrancher une. Celle-ci est parfaite. Vous ne pouvez y ajouter ou y recrancher quoi que ce soit. Ils ont pensé améliorer un peu la prière. Ils essaieront d'y introduire ceci et d'y ajouter cela ou d'y recrancher ceci. Cela n'est pas juste, voyez-vous. Cette prière est parfaite. Toutes les voies de Dieu sont parfaites. C'est pourquoi nous sommes imparfaits. Mais il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Comment pouvons-nous l'être? Par le sang précieux de Jésus-Christ, pour nous oublier nous-mêmes et vivre simplement en lui. Vous y voilà. Combien ce sang est précieux. Très bien. Le sixième verset maintenant, si nous y arrivons. Cette lampe, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Oh là là, regardez ceci. Quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et... Maintenant, attendez. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Maintenant, la mer de verre. Vous y allez, Cette chose-ci n'est pas exactement un symbole, mais je désire l'effacer une minute. Maintenant, nous désirons étudier ici juste un peu. La mer de verre est symbolisée dans le vieux temple. Car Dieu commanda à Moïse de construire le temple sur terre comme il le vit dans les cieux. Chacun sait cela. Très bien. Laissez-moi juste faire un petit dessin ici maintenant. Disons qu'ici se trouvait l'arche dans l'Ancien Testament. Très bien. La chose suivante était appelée le Saint des Saints. L'endroit suivant ici était l'autel qui est appelé le lieu saint. Juste en avant de ceci se trouvait ce qu'on appelait la mer des reins. En d'autres termes, c'était l'endroit où les sacrifices étaient lavés. Ils étaient lavés ici avant d'être reçus à l'autel des reins où le sacrifice était brûlé. Maintenant, nous voulons remarquer où cela se trouvait. Dans la mer de verre, celle-ci était devant le trône et devant le lieu saint. Souvenez-vous simplement les sept chandeliers d'or sont placés ici comme ceci, et vient ensuite une cuve, voyez-vous? Maintenant, c'est ce qui reflète la lumière du lieu saint jusqu'ici. Si vous n'avez pas besoin d'écrire ceci, à moins que vous ne le désiriez, mais c'est... Il y a quelque chose d'autre que j'ai dessiné et dont je désirais vous parler. Maintenant, vous voyez, ceci était appelé la mer des reins. Elle n'était pas aussi large que cela. Sa position était plus ou moins déterminée dans le temple. Donc, la mer des reins se trouvait à peu près ici, comme ceci. C'était une cuve faite d'airain où il lavait les sacrifices. Avant que les sacrifices soient brûlés ou acceptés, ils devaient être lavés. Oh, cela ne ferait-il pas un serment en ce moment même? Est-ce que cela vient de me frapper? Laver, avant qu'un sacrifice soit reçu par Dieu, il doit d'abord être lavé. De quelle façon? Non pas émotionnellement, mais lavé par la parole. Maintenant, nous pourrions nous reporter là où ce rabbin juif, tandis que je pressais ce serment sur les eaux de séparation, la Genèse rouge, les eaux qui restaient au-dessus, afin d'être des eaux de séparation. Et avant que nous puissions venir à Dieu avec une foi véritable, nous devons d'abord venir par les eaux de séparation. Oui, monsieur, nous devons venir par foi, par la parole. Oh, voyons si je puis en parler de façon à ce que chacun le comprenne. Maintenant, revêtez-vous de votre pensée spirituelle. Enlevez votre bonnet de guerre et revêtez-vous donc de votre pensée spirituelle. Car voici quelque chose. Lavez avant de pouvoir être reçus à l'autel. Comme cela doit être lavé d'abord par les eaux de séparation. Maintenant, prenez rapidement avec moi Éphésiens 5. Retenez simplement votre passage. Et retournons quelques pages en arrière, à Éphésiens chapitre 5, verset 26. « Afin qu'il la sanctifiât en la purifiant, » il parle de l'Église, voyez-vous maintenant, laissez-moi revenir un peu plus en arrière. Allons en arrière à peu près au verset 21, tandis que vous y êtes. « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, soumettez-vous, congrégation, soumets-toi à ton pasteur. Pasteur, soumets-toi à ta congrégation. Si un petit clan se forme, ne vous rangez ni d'un côté ni de l'autre. Soumettez-vous à la congrégation entière. Congrégation, si tu commences un petit clan, soumets-toi à ton pasteur dans la crainte de Dieu. Voyez-vous, ô frères, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car il est votre Seigneur. Combien savent cela, vous les femmes? C'est parfaitement juste. La Bible l'a dit au commencement. Il en est toujours ainsi. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Ainsi en est-il du mari. Vous devriez savoir cela, vous qui êtes mariés, et les adultes, et vous les enfants qui êtes assez vieux pour savoir comment vivre. Très bien. Comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ne la molestez pas, si vous le faites, vous n'êtes pas digne d'être mari, c'est juste, afin qu'il... Écoutez, le voici. Comprenez-le maintenant. Afin qu'il la sanctifia en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. Dès lors, chaque adorateur qui a accès à ceci doit venir par la parole. Il y en a trop qui viennent autrement. Je crois dans les petites histoires et ainsi de suite, au sujet de maman qui mourut il y a bien des années et qui vous attend au ciel. Cela est en ordre après que la parole ait été appliquée. Bien des gens viennent à l'autel parce qu'ils désirent rencontrer leur maman au ciel. C'est en ordre, vous devriez le faire, mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous venez à l'autel. Vous venez à l'autel confessant vos péchés parce que Christ est mort à votre place par la parole. Alors, tout sacrifice qui ne vient pas selon la parole n'est pas accepté. Est-ce juste? Oh, frère, je n'aime pas dire ceci. Oh, je n'aime pas le dire. Pardonnez-moi si je le dis. C'est la raison pour laquelle Acte 19 dans la Bible nous dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» Ils dirent « Nous ne savions pas qu'il y avait. » Il dit « Alors, de quelle manière avez-vous été baptisés ? Pourquoi n'êtes-vous pas entrés ici ?» Ils étaient venus par un autre moyen que la parole. Ils dirent « Oh, nous avons appris la formule, nous avons été baptisés. » Jean, il dit « Cela ne marche pas. » Jean baptisa seulement pour la repentance, non pas pour la rémission des péchés. Et après avoir entendu ceci, ils furent rebaptisés. Par quoi? Par la parole. Lavés par les eaux de la parole. Tout ce qui ajoute quoi que ce soit est faux. Maintenant, mes précieux frères, je sais que ceci est enregistré aussi. Ne vous énervez pas. Laissez-moi dire ceci dans un amour pieux. L'heure est arrivée où je ne peux plus taire ces choses, étant trop près de la venue du Seigneur, voyez-vous. Le trinitarisme est du diable. Je dis que c'est ainsi dit le Seigneur. Regardez d'où cela provient. Cela vient du concile de Nicée lorsque l'Église catholique reçut la domination. Le mot « trinité » n'est même pas mentionné dans le livre entier de la Bible. Pour ce qui est de trois dieux, cela est de l'enfer. Il y a un Dieu, c'est parfaitement juste. Maintenant, dites-vous alors, croyez-vous que toutes ces personnes qui sont trinitaires sont de l'enfer? Non, monsieur, je crois que ce sont des chrétiens, mais leur approche, frère, où ils sont sincèrement dans l'erreur. Si quelqu'un, n'importe où, n'importe quand, désire parler là-dessus, qu'il vienne me voir, n'importe quel ministre, ou évêque, ou archevêque, peu importe qui vous êtes, et ceci est enregistré et ira tout autour du monde. Je demande, dans l'amour fraternel, à n'importe quelle personne qui m'entendra sur cette bande qui fera le tour du monde, de venir me voir et de me montrer un texte de l'Écriture ou un paragraphe tiré de n'importe quel authentique livre d'histoire où quelqu'un ait jamais été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit avant qu'il ne forme l'Église catholique. Je changerai ma doctrine. Chaque personne fut baptisée au nom de Jésus-Christ. Mes précieux frères, vos yeux ne voient pas ces choses-là. Priez Dieu de vous donner la lumière. Maintenant, si vous avez l'Écriture pour le soutenir, j'attendrai ou j'écouterai votre appel. Vous qui écoutez cette bande, vous marchez volontairement dans une ignorance spirituelle si vous ne me lancez pas de défi à ce sujet. Si vous voulez savoir ce qui est lumière et ce qui est ténèbres, demandons à Dieu. Souvenez-vous, je dis « Ainsi dit le Seigneur ». Si vous croyez que je suis son serviteur, et si ce n'était pas selon la parole, ce serait faux. Alors, si ce n'est pas selon la parole, il est de votre devoir de venir me corriger. Nous verrons ce qui arrivera. C'est une erreur. Je crois que plusieurs milliers de trinitaires qui croient en trois dieux sont sauvés, parce qu'ils ne connaissent rien d'autre. Nous le verrons en continuant dans le message. Maintenant, n'arrêtez pas tous vos enregistreurs pour sortir de chez vous. Vous, frères trinitaires, écoutez ceci, mais restez assis tranquilles quelques minutes. Il en est de votre devoir. C'est votre devoir envers votre congrégation, voyez-vous? Ne vous arrêtez pas de recevoir les bandes. Simplement avec cela, fondez cela par la parole et voyez si c'est juste. La Bible dit « Examinez toutes choses ». Je sais que c'est impopulaire, Jésus l'était aussi,
Le message l'a toujours été aussi. Vous m'aimiez lorsque je venais guérir les malades et les affligés parmi vous. Vous pensiez que c'était glorieux d'avoir de grandes foules et d'édifier l'Église. Maintenant, Jésus fit la même chose jusqu'au jour où il dut en venir à la vérité. Et à ce moment-là, même les 70 se détournèrent de lui. Il se tourna vers le reste, les 12, et dit, « Ne voulez-vous pas, vous aussi, vous en aller ?» Et Pierre dit ces paroles remarquables, « Seigneur, à qui irions-nous, car tes paroles en soi sont éternelles, et la parole de Dieu en soi est éternelle. Et trouvez-moi un endroit où Dieu ait jamais dit que quelqu'un fut baptisé dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Prenez Matthieu 28, 19, Père, Fils et Saint-Esprit, où Matthieu dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et quiconque pense que Père, Fils et Saint-Esprit est un nom, cela montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec leur instruction, pour qu'un étudiant de 7e année dise cela à des évêques qui entendent ceci. Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont des titres qui s'adressent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. Souvenez-vous, je ne dis pas cela dans la colère, mais dans l'amour et dans un saint respect, avec amour et considération envers tout le corps de Christ, dans les assemblées où je suis invité par mes frères trinitaires, et partout dans le monde où l'on m'invite à prêcher. Mais je mentionne jamais cela lorsque je suis parmi vous. Je désire être... Laissez-moi vous poser la question, et j'irai vers la paroisse avec vous, et je vous en parlerai, mais devant votre congrégation, cela les réveillerait. Il est de votre devoir de recevoir la révélation et d'enseigner votre troupeau. Vous êtes le berger du troupeau. Je parle aux ministres. Si vous ne comprenez pas, venez, assoyons-nous et raisonnons ensemble. La Bible dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. La mer de verre, là où le sacrifice était lavé, et nous sommes lavés, oh, ne l'oubliez pas, nous y reviendrons un peu plus loin, lavés par l'eau de la parole. Alors vous devez entendre la parole avant de pouvoir entrer là, parce que le seul moyen par lequel vous puissiez approcher Dieu, c'est par la foi. Est-ce juste? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous marchons par la foi, la grâce, ce que Dieu a fait pour vous. C'est juste, vous avez cru Dieu, vous croyez en Dieu, et aussitôt que vous regrettez, vous êtes déjà pardonné. Comme je parlais à un frère hier, qui était un peu embrouillé là-dessus, je lui dis, « Regarde frère, si tu disais quelque chose à ta femme qui blesse ses sentiments, immédiatement tu serais désolé, tu regretterais de l'avoir fait. » Tu t'es donc déjà repenti dans ton cœur, c'est juste. Mais tu dois aller lui en parler. Tu dois aller lui dire, « Chérie, je regrette d'avoir dit cela. » Alors, tu t'es complètement repenti. C'est ainsi qu'il en est avec Dieu. Un homme qui viendra dire, « Je lui ai fait de la peine, mais ça ne fait rien. Je lui dirai que je regrette, mais en réalité, je ne regrette pas. » Vous êtes un hypocrite, voyez-vous. C'est juste, cela ne sera jamais accepté par Dieu. Vous devez pleinement regretter vos péchés. Alors que vous savez que vous regrettez vos péchés, lorsque vous savez, à ce moment-là, c'est la repentance. Et vous vous faites baptiser au nom du Seigneur Jésus pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le pardon. Vous recevrez le Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est tout simple. Dieu l'a rendu si simple. Voici le... Nous remarquons ici, dans la mer de verre, qu'elle était semblable à du cristal. Maintenant, la mer de verre est symbolisée, typifiée par la mer d'airain. Ceci est la mer de verre dans le ciel. Moïse la vit comme une mer de verre et fit ce qui fut appelé la mer d'airain. Un autel d'airain, un sacrifice d'airain, un autel d'airain plutôt. Vous savez ce que représente l'airain dans la Bible? Le jugement. Il fit un serpent d'airain. Que signifie le serpent? Le symbole du serpent signifiait que le péché était déjà jugé dans le jardin d'Éden. Lorsque son talon lui écrasera la tête, sa tête lui blessera le talon. Et l'airain représente le jugement divin. l'autel des reins où était brûlé le sacrifice, la cuve des reins où celui-ci était lavé par l'eau de la parole. Voyez-vous? Élie, en son temps, sortit et leva la tête en disant, le ciel a l'aspect de l'airain, le jugement divin sur une nation rejetée. L'airain, l'airain. Maintenant, nous en sommes à la cuve. Et vous avez remarqué que cette cuve était vide et qu'elle était aussi claire que du cristal. Pourquoi? L'Église avait déjà été rachetée. Maintenant, nous remarquons un peu plus loin, cependant, que lorsque les saints de la tribulation parurent, celle-ci était à nouveau pleine de feu. Saviez-vous, voudriez-vous le lire? Allons donc dans Apocalypse 15e chapitre, verset 2, et lisons le passage où nous retrouverons ce feu des reins. Très bien. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. Sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. La colère de Dieu. Regardez bien. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Oh, voyez-vous cela? La période de la tribulation. Êtes-vous pressé? L'assemblée répond non. Note de l'éditeur. Très bien. Écoutez, remarquons quelque chose ici. De quelle façon venons-nous? Nous devons venir, l'Église des nations, à cette parole, cette mer de verre, l'eau de la parole. Est-ce juste? Nous devons reconnaître la parole exactement comme elle est écrite. Alors, le sacrifice est accepté et rempli du Saint-Esprit depuis l'intérieur, reflétant la lumière de cet âge. Depuis ceci, ici, elle sort du lieu saint pour entrer ici. Elle part de l'étoile pour entrer ici. Le saisissez-vous? Maintenant, remarquez à la fin de cet âge, Jean, lorsqu'il vit la mer d'Airain là-bas, elle était claire comme du cristal. Qu'était-ce? La parole avait été retirée de la terre, enlevée dans l'église, et était claire comme du cristal. Plus de sang, l'âge de l'église était terminé. Or, dans Apocalypse 15, le reste de la postérité de la femme, qui étaient les saints de la tribulation qui traversèrent celle-ci, fut trouvé, regardez, debout sur la mer. Et cette mer était remplie de feu, de sang, des flammes rouges de feu dévorant, le feu de Dieu. Ils avaient eu la victoire sur la bête, Rome, sur le nombre et la lettre de son nom, et sur son image, la confédération des églises, et ils en étaient sortis. Et par la prédication de Moïse et d'Élie, ces deux prophètes qui apparaîtront à Israël pour faire sortir ce groupe de gens, ces saints de la tribulation qui entreront à ce moment-là, voyez-vous, l'Église aura déjà été enlevée à ce moment-là, mais souvenez-vous que la femme est sur le trône. La période de la tribulation, elle vécut dans les royaumes à l'extérieur et amena ses rois et son honneur et sa gloire dans la ville. Comme nous allons dans Apocalypse 22, vous le verrez. Si vous écrivez ceci et que vous le retenez, lorsque nous y arriverons, vous verrez ce que nous voulons dire. Nous n'avons pas le temps de saisir chaque petite chose et de l'expliquer complètement, mais nous traitons des points principaux. Puis un de ces jours, peut-être, le Seigneur voulant, nous aurons bien le temps d'en parler. Or, ces saints de la tribulation qui parurent étaient passés par la grande tribulation. L'Église ne passera pas par la tribulation. Voyez-vous qu'ils étaient déjà dans la gloire. Et voici les saints de la tribulation, les sanctifiés qui avaient, sachant que c'est ma faute et votre faute, s'ils n'eurent jamais entendu la parole. S'ils l'entendirent et qu'ils la rejetèrent, ils sont allés en enfer. Ils furent chassés dans les ténèbres du dehors pour avoir rejeté la parole. Mais s'ils ne l'ont pas entendu, Dieu est juste. Ils vont dans la période de la tribulation. Remarquez juste une minute. Pensez, lavez par la même parole, car c'est le même autel, c'est la même mer de verre et la même parole. Apocalypse 2, 5, ou plutôt Apocalypse 15, 2 à 5. Remarquez juste une minute. Nous ne leur avons jamais apporté la parole. C'est la raison pour laquelle ils furent comme cela. nous ne leur avons jamais apporté la parole. Nous serons tous tenus responsables de cela. Ainsi, nous ne pourrons atteindre tous les gens. L'Église qui a la vérité dans cet âge n'atteindra pas tous les gens, parce qu'ils passeront par la tribulation. Ce ne sont pas les saints qui sont morts autrefois là-bas dans les âges de l'Église, car il dit, ceux-ci mentent de la grande tribulation. Et la grande tribulation est encore à venir, après que l'Église rentre à la maison. Oh, vous y voilà! Oh, j'aime cela! Écoutez, allons un peu plus loin, je veux voir quelle sorte de paroles ils entendirent. Maintenant, repartons au verset 2 du chapitre 15. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Voyez-vous, ils n'étaient jamais entrés, mais ils avaient entendu la parole. Ils avaient entendu la parole. Écoutez bien. Voyons quelle sorte de doctrine ils entendirent. Voyons si l'on peut comparer cela à l'Église maintenant. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Cela est après que Moïse eut traversé. Et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Qui est cet agneau? Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. « Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. » Voyez-vous ce pourquoi ils le reconnurent? Non pas pour une troisième personne de la Trinité, mais pour le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le roi des nations. Écoutez, êtes-vous prêts? Verset 4. Qui ne craindrait Seigneur, S majuscule, E-I-G-N-E-U-R, Elohim, et ne glorifierait ton nom? Cela fut lavé par les mêmes eaux par lesquelles vous êtes lavés en ce moment, en entendant la parole, et par la foi et la puissance de Jésus-Christ, qui est le Tout-Puissant. C'est la révélation entière du commencement. Tout cela repose dans la révélation de qui est Jésus-Christ, Dieu fait chair parmi nous. Ton nom est grand et admirable. Qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. En d'autres termes, nous voyons ce que c'est que de ne pas recevoir ta parole, tes jugements sont rendus manifestes. Voici que nous nous tenons ici, nous sommes lavés maintenant, nous sommes lavés par l'eau, après être passés par la période de la tribulation. Nous avons pris position pour toi et nous t'avons cru, et maintenant nous nous tenons debout sur la mer de verre, et nous t'honorons et nous te glorifions dans la réflexion de ta sainte parole. Et tes lampes sont véritables et tes jugements sont justes. Oh là là, nous pourrions passer une semaine là-dessus. Le baptême du Saint-Esprit. Dessinons quelque chose juste ici maintenant, juste une minute. Je désire dessiner quelque chose. Pourquoi ne le prenons-nous pas simplement à partir d'où nous sommes rendus? Maintenant, si vous remarquez, voici une grande image. Voici le Saint des Saints. Très bien. Voici le lieu saint. Et voici en premier lieu, avant d'entrer là, il y a la mer. Très bien. Remarquons maintenant, comment approchons-nous Dieu? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu qui se reflète depuis le Saint des Saints dans le messager de l'âge. En revenant là-dessus, dans le temple de Salomon, cela se réfléchissait, ces lampes réfléchissaient leur lumière jusque dans cette cuve d'airain. Ainsi, ici, l'ange de l'Église, l'ange de l'âge de l'Église, réfléchit dans cette eau tout ce qu'est celui-ci ici, sa miséricorde, sa parole, son jugement, son nom. Tout est réfléchi ici où vous êtes séparés en croyant cela. Le comprenez-vous? Remarquez combien ceci est magnifique ici. Nous en avons parlé l'autre jour. Regardez ici. Ici, c'est pourquoi étant justifié par la foi. Très bien. Deuxièmement, après avoir été lavé, sanctifié. Et ensuite, rempli du Saint-Esprit. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Le voyez-vous? Qu'était son message? La justification en entendant. La sanctification est ce que vous faites. Et par égard pour ce que vous avez fait, parce qu'il l'a apprécié, Dieu vous scelle du Saint-Esprit. Maintenant, vous, mes frères baptistes, je désire vous demander quelque chose. Vous dites, qu'est-ce qu'Abraham pouvait faire de plus que de croire Dieu, et Dieu le lui imputa à justice. C'est tout ce qu'il pouvait faire juste ici. Il crut Dieu, mais Dieu, pour accepter sa foi, lui donna le sceau de la circoncision et le scella, montrant qu'il avait accepté sa foi. Ainsi, vous confessez votre foi en Dieu et n'avez jamais été scellé du Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30 dit, si vous voulez l'inscrire, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé, et vous n'êtes pas scellé tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Combien de temps cela durera-t-il? Cela dure-t-il? Jusqu'au prochain réveil? Jusqu'à notre rédemption? Jusqu'au jour même de la rédemption? Il n'y a pas à sortir de là. Vous ne pouvez pas sortir de cela, car cela ne sortira pas de vous. Voyez-vous? Vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Ni les choses à venir, ni les choses présentes, ni les périls, ni la faim, ni la soif, ni la mort, ni rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'en ai pleinement l'assurance. Vous y voilà. Vous y voilà. Vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Remarquez, cela nous ramènera à nouveau au dernier dimanche. Ai-je le temps? Regardez ceci. L'esprit, l'âme et le corps. Très bien, voyez-vous? Corps, âme, esprit. Maintenant, laissez-moi effacer cela et dessiner ici quelque chose pour vous. Maintenant, je vais dessiner quelque chose ici. Je n'ai pas eu la chance de le faire dimanche dernier. Ainsi, je l'ai dessiné moi-même ici sur ce morceau de papier jaune. Car je désire que vous inscriviez cela et que vous puissiez voir ce que je veux dire maintenant, vous qui avez des crayons. Maintenant, ceci est le corps. Et ceci est l'âme, mais ceci est l'esprit. L'esprit, le Saint-Esprit. Très bien. Maintenant, voilà de quoi nous sommes faits. Si vous avez remarqué ici le lieu saint, le saint des saints, ici l'autel, le lieu saint, et ici la mer, c'est là où vous entendez la parole. La foi vient de ce qu'on entend de la parole. La séparation, la mer de séparation, la mer de séparation. Maintenant, remarquez ceci maintenant, il n'y a qu'une seule entrée pour pénétrer ici, et c'est que vous devez venir ici d'abord, n'est-ce pas? Maintenant, je souhaiterais avoir de la place, je mettrais ici les vierges, lorsque le souper des noces, une autre chose. Vous voyez comment cet homme entra ici au souper des noces? Et il entra par un autre moyen. La porte se trouvait ici. Jésus dit, « Je suis la porte. » Et cette table de noces était dressée ici, et les gens s'assoyaient tout autour. Et il se trouvait un homme ici qui n'avait pas revêtu la robe de noces. Et lorsque le roi entra, il dit, « Comment es-tu entré ici, mon ami? Comment as-tu jamais pu entrer ici ?» Cela montrait qu'il n'était pas entré par cette porte. Il entra par une fenêtre ou par derrière, ou par quelque credo ou dénomination, il n'est pas entré par la porte. Car dans les vieux pays d'Orient, ils ont toujours la même coutume. L'époux qui va se marier distribue les invitations et fournit la robe à tous ceux qu'il a invités. Oh, combien mon cœur palpite quand je pense à cela. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père ne lui donne d'abord une invitation. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. De quelle manière avons-nous été appelés? Avant la fondation du monde, nos noms furent écrits dans le livre de vie de l'agneau, afin que nous voyions la lumière, que nous recevions le Saint-Esprit pour y marcher. Nos noms, lorsque l'agneau s'est immolé, furent écrits dans le livre en même temps que le nom de l'agneau qui fut écrit. La Bible, nous y reviendrons tout à l'heure, dit, il séduisit tous les habitants de la terre dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. Remarquez alors s'il l'époux lui-même lorsqu'il se tenait à la porte et celui qui apportait l'invitation disait « Voici, merci ». Il prenait l'invitation, la déposait ici et le revêtait d'une robe afin qu'ils se ressemblent tous. J'aime cela. Vous voyez, dans la puissance de Dieu, dans l'Église du Dieu vivant, les riches, les pauvres, les esclaves, les libres, les noirs, les blancs, les bruns, les jaunes, se ressemblent tous, car ils sont revêtus de la même puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous, maintenant, cela montrait qu'ils n'étaient pas entrés par la porte. Mais remarquez ici, oh, si un homme essayait d'entrer dans le Saint des Saints, quelqu'un, un docteur de la Bible me dit cela, si quelqu'un entrait dans ce Saint des Saints sans passer par ici, il mourrait. Le fils d'Aaron prit du feu étranger un jour, un feu dénominationnel, alors que ce n'était pas du feu dénominationnel, et ils moururent à la porte. Est-ce vrai? Ou je crois que ce furent les fils d'Élie. Les fils d'Élie les faisaient entrer, alors que cela représentait les fils d'Aaron qui étaient le sacrificateur. Maintenant, il n'y a qu'un moyen d'entrer dans ce corps. Comment ce corps est-il contrôlé? Maintenant, regardez très attentivement et préparez vos crayons. Voici les portes de ce côté-ci qui mènent dans le corps. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, l'avez-vous dessiné? Maintenant, la première porte ici est la vue, l'odorat, l'ouïe, le goûter et le tact, le toucher. Comme vous voulez, peu importe. Maintenant, ce sont des sens du corps. Est-ce exact? Combien savent qu'il y a 6 sens qui contrôlent le corps? Maintenant, après avoir traversé ceci, nous avons une âme. Les sens sont à l'extérieur. Il s'agit du système extérieur. Maintenant, là-dedans, il y a 1, 2, 3, 4, 5 attributs dans l'âme. Maintenant, si vous désirez les écrire, le premier est l'imagination. Le deuxième est la conscience. Et le troisième est la mémoire. Et le quatrième est la raison. Et le cinquième est l'affection. Maintenant, les avez-vous tous? Sinon, faites-moi savoir. Vous les avez tous écrits? La vue, le goûter, le toucher, l'odorat et l'ouïe, le corps. Ce sont les ouvertures du corps. Pour l'âme, c'est l'imagination, la conscience, la mémoire, la raison et l'affection. Ce sont les sens ou les attributs comme les sens de l'âme. Et l'âme est la nature de l'esprit qui se trouve à l'intérieur. Car l'âme dégage seulement l'atmosphère de ce qui est à l'intérieur de vous. Cela tient lieu de sanctification. L'âme se situe dans la même catégorie. Maintenant, très bien maintenant, tout le monde a tout écrit. Maintenant, à ceci, il n'y a qu'une porte, une seule porte, qui est appelée la volonté libre. Vous êtes maître de ce qui entre à l'intérieur. Et qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce que ceci? Le corps doit être lavé, la cuve, puis sanctifié ici, puis rempli du Saint-Esprit ici, et ceci devient à nouveau le siège du jugement de Dieu, là où Dieu s'assoit dans votre cœur. Si vous faites quelque chose de faux, vous dites, « Oh là là, j'ai mal agi. » Certaines gens disent, des femmes, « Oh, cela ne me condamne pas d'avoir les cheveux courts. Cela ne me condamne pas de porter du poli à ongles ou du fard, peu importe ce que c'est. Cela ne me condamne pas d'aller danser. Cela ne me condamne pas de raconter un petit mensonge. Cela ne me condamne pas de jouer au bridge, à ma partie de bridge. Vous savez quoi? Vous n'avez rien pour vous condamner. Cela ne blesse pas ma conscience. Vous n'avez pas plus de conscience qu'un serpent à deux hanches. Ainsi, vous n'avez pas de conscience. Il n'y a rien là qui vous blessera. Vous êtes du monde. Mais je vous défie de laisser entrer Jésus-Christ là-dedans et d'essayer une fois de faire cela. Frère, vous vous sentirez si condamné que vous ferez marche arrière et vous en secourez la tête aussi vrai que je me tiens ici, car il est saint. Écoutez, je cite l'Écriture. Si vous aimez les choses qui sont du monde, les choses du monde, c'est que l'amour de Dieu n'est pas même en vous. La volonté libre, pourquoi vous appelez, voulez-vous appeler cela la volonté libre, frère Branham? Parce que cela remet l'homme et la femme tout à fait comme Adam et Ève au jardin d'Éden. Sur quelle base? Les deux arbres. La volonté libre. Celui-ci est la mort. Celui-là est la vie. La volonté libre. Le libre arbitre. Dieu plaça le premier homme, Adam et Ève, sur la base du libre arbitre. Il vous place sur la même base. Et le seul moyen que vous puissiez arranger cette chose là-dedans, c'est par votre volonté libre. Alléluia. Votre libre vouloir. Vous devez vouloir faire la volonté de Dieu. Vous devez vous débarrasser de votre propre volonté pour laisser entrer la volonté de Dieu. Car ceci est le seul canal qui mène au cœur. Oh, vous pouvez joindre l'Église, vous baptistes et presbytériens, et vous méthodistes et pèlerins de la sainteté. Vous pouvez venir à la sanctification, mais vous devez vouloir faire la volonté de Dieu, le libre vouloir. Laissez le Saint-Esprit entrer là-dedans afin de porter fruit. Ces signes accompagneront ceux qui ont laissé leur volonté devenir ma volonté. Les œuvres que je fais, ils les feront aussi. J'espère que vous ne le manquez pas. Il y a une volonté pour faire la volonté de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez ici, en parlant du lieu saint, de la cuve. Voici les lumières, les chandeliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chacun d'eux possédant une lumière. D'où reçoivent-ils leur lumière? Où est-ce que la lumière reflétait? Dans quelle direction envoyait-elle sa réflexion? Elle ne reflète pas ici au coin dans quelques dénominations. Elle reflète ici, sur la parole. Ce sont les eaux de séparation. Ouf! Car la repentance et la rémission des péchés, Luc 24, 49, doivent être prêchées en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance et la rémission des péchés furent-elles prêchées à Jérusalem? Jusqu'où cela va-t-il? De par tout le monde. Repentez-vous, dit Pierre, en Acte 2, 38, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ce message doit aller de par tout le monde, et alors viendra la fin, après que ce message sera allé par tout le monde. Comment ces chandeliers ici reflèteront-ils la lumière sur quelques dénominations méthodistes, presbytériennes ou pentecôtistes? Ils ne le feront certainement pas. Cela se reflète ici comme le « je suis », non pas le « j'étais », non pas trois ou quatre différentes personnes, mais Dieu assis là, se reflétant dans chacune de ses églises. Regardez en arrière et voyez ce qu'ils firent. Nous venons de parcourir l'histoire. Il le reflétait comme il était, comme il est et comme il sera toujours. Celui qui était, aussitôt que Jean reçut la première vision, il dit, « Celui qui était, qui est et qui vient, le Dieu Tout-Puissant, la création de Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, voilà la vraie lumière qui doit être reflétée. La voyez-vous? Amen. » Après-midi, et j'ai... Écoutez, dépêchons-nous seulement afin que vous puissiez le copier. Je n'aime pas vous garder trop longtemps, mais je sais que je ne sais pas quand je vous reverrai, voyez-vous, et je désire que vous compreniez ceci, amis, ceci est la vie. Maintenant, regardez, non pas parce que c'est moi qui le dis, ce n'est pas ce que je veux dire. Si je vous donne cette impression-là, alors je suis, vous ne comprenez pas mon cœur. Je n'essaie pas de refléter, oh, ceci est juste. Vous n'êtes rien. Je n'essaie pas de faire cela. Si vous n'avez pas reçu la lumière, j'essaie de vous en montrer une. Pas celle qui est ici à cette chair, celle qui est ici à ce trône. Et ce trône doit devenir une réalité dans votre cœur. Alors, vous verrez exactement la même chose qui se reflète ici. Qu'est-ce que ceci, ici? Cela reflète ceci, et ceci est ceci, la parole. Lavé par les eaux de la parole, par la parole. Lavé par les eaux de séparation des choses du monde, par la parole. La parole dit qu'il est le même hier et pour toujours. Elle ne dit pas, il est le même dans l'âge pentecôtiste, jadis du temps des disciples, puis dans l'âge suivant, il changea. Non, il est le même. Voyez, vous ne pouvez pas lui faire dire autre chose. Nous pourrions simplement rester sur l'une de ces choses pendant 4 heures. Mais j'espère que vous le comprenez maintenant. Si Dieu vous a appelé, vous le comprendrez. C'est ce que je crois. Très bien. Très bien, monsieur. Maintenant, qu'est-ce? La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Âme, corps, esprit. C'est toujours pareil. Maintenant, la lampe reflète la parole. La véritable parole reflète quoi? Que reflèterait cette lampe si elle recevait sa lumière de cette Shekinah de la gloire? Elle reflèterait la Shekinah de la gloire. Est-ce juste? Si vous recevez votre lumière dans le séminaire, vous reflèterez le séminaire. Vous la recevez dans le séminaire méthodiste, vous reflèterez le méthodisme. Vous reflèterez. Si vous la recevez dans le séminaire pentecôtiste, vous reflèterez le pentecôtisme. Mais si vous la recevez dans la gloire de Dieu du buisson ardent, eh bien Moïse, lorsque Moïse sortit de sa présence, il dut se couvrir le visage. Ainsi, les gens ne pouvaient même pas le regarder, n'est-ce pas vrai? Il était rempli de la puissance de Dieu. Étienne, un homme rempli du Saint-Esprit, ils essayèrent de l'arrêter. Eh bien, c'était comme essayer d'éteindre une maison en feu par un jour venteux. Oh, plus il soufflait dessus, plus cela devenait pire. Eh bien, vous ne pouviez pas l'arrêter. Ils le traînèrent et l'amenèrent devant le Sanhédrin. La Bible dit, il se tenait là, ressemblant à un ange. Maintenant, je ne pense pas que le mot « ange » signifie seulement qu'il était un certain être qui se trouvait là. Mais un ange sait exactement de quoi il parle. Ainsi, n'importe quel ange, un messager de l'art de l'Église, n'a pas à retourner pour voir ce que le séminaire pense. Il sait ce que Dieu dit dans sa Bible. Il connaît la puissance qui reflète pour prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas peur. Il dit exactement ce qu'il sait être la vérité. Et Dieu se tient juste là, appuyant cela par les mêmes genres de signes et de prodiges, et avec la même parole. Voilà ce qu'est un ange. Étienne se tait là et dit, « Je sais de quoi je parle. » Il dit, « Hommes au coureb, incirconcis de cœur et d'oreilles, vous résistez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Il dit, « Lequel de vos pères n'a pas tué de prophète ?» Et ensuite, vous leur bâtissez des tombeaux, et vous, dénomination, laquelle de vous n'a pas fait la même chose? Voyez-vous, vous bâtissez de grands châteaux aux parois blanchies et des morgues et toutes ces choses autour de ceci, et ensuite vous parlez de Dieu, vous êtes ceux qui l'avaient mis dans la morgue, vous êtes ceux-là même qui l'avaient mis en tombe en ce temps-là. Une grande église en forme de château blanc, c'était les dénominations, les pharisiens et c'est les sadducéens qui le mirent là-dedans pour essayer ensuite de lui édifier un monument. Laissez-moi vous dire que Christ est un être vivant. Il n'est pas quelqu'un de mort. Il est quelqu'un qui ressuscita d'entre les morts et qui vit éternellement. Oh, frère, certainement. Qu'est-ce que cela fait? Cela reflète quoi? Cela reflétant à partir d'ici, que serait-ce? Ce serait, quelle est sa véritable réflexion? Alors, la première chose que cela reflèterait serait son nom. Est-ce juste? Cela reflèterait son nom. La deuxième chose que cela reflèterait serait sa puissance. Vous voyez ce que je veux dire? Cela reflèterait tout ce qu'il est. Ainsi, si ceci reflète sur cet âge ici tout ce qu'il était, alors il est le même. Oh, gloire! Gloire! Qu'est-ce? Cela le reflète comme il était, comme il est, comme il sera toujours, car cela vient directement du trône de Dieu. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même Dieu, la même puissance, la même gloire, la même chose complètement. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, frère! Allons simplement un peu plus loin. Maintenant, prenons de ce sixième verset ici au quatrième chapitre. J'ai des commentaires d'inscrits ici, là-dessus, mais je veux me dépêcher et terminer cela si je peux. Maintenant, le reste, après ce verset 6, cela s'enchaîne simplement. Nous disons ce qu'ils disent. Voyons si nous pouvons terminer là-dessus. Une mer de verre, nous savons ce que c'était. Au milieu du trône, quatre êtres vivants, les bêtes. Maintenant, combien possède une version revisée de la Bible? Dans notre version revisée, il est dit « être vivant ». Eh bien, je me suis demandé comment il se faisait que cette version du roi Jacques ici disait que ces êtres vivants étaient quatre animaux. Eh bien, je me suis procuré un dictionnaire grec, me suis reporté au dictionnaire biblique, et j'ai découvert ce que cela signifiait. Maintenant, voici ce que c'est. Remarquez attentivement. Le mot traduit ici, maintenant écrivez-le si vous le pouvez, ou aussi le rechercher et pour en être sûr. Voyez, je désire que vous écriviez tout ce que je vous dis, si vous le pouvez et si vous le désirez. Très bien, la version revisée dit « être vivant » à ce sujet. Maintenant, regardez. Quatre animaux plein Dieu devant et derrière. Et cela continue en décrivant les animaux auxquels nous arriverons dans une minute. Maintenant, l'animal ici est représenté. Avez-vous une note de renvoi dans votre Bible sur les animaux? Si oui, reportez-vous au parallèle. Je remarque que le docteur Scofield ici en a écrit une dans sa version. Les bêtes ici, dit-il, signifient être vivant. Maintenant, regardez. Le mot grec est zoon ou zoon. Zoon. Ainsi, donc, dans le grec, cela s'appelle zoon, ce qui veut dire un être. Maintenant, ce n'est pas si vous désirez le lire maintenant, nous n'avons pas le temps. J'allais le lire, mais je n'ai pas le temps. Inscrivez Apocalypse 11, 13 et 17. Maintenant, le mot bête est mentionné dans Apocalypse 11, 13 et 17. On les appelle bêtes de la même manière, mais dans ce chapitre, l'interprétation du mot bête est T-H-E-R-I-O-N, Therion. Le mot grec therion veut dire animal sauvage et inapprivoisé, mais zoon veut dire un être. Voyez-vous, quatre êtres vivants, zoon, non pas les bêtes sauvages, therion, mais zoon, être vivant. Et therion veut dire sauvage, inapprivoisé. Autrement dit, si vous regardez le 11e chapitre, c'est la bête de Rome. Le 13e chapitre, ce sont les États-Unis. Le 17e chapitre, ce sont et les États-Unis et Rome. Les églises dénominationnelles, consolidées par le catholicisme, font d'eux des inconvertis, des inapprivoisés pour l'Évangile. Oh là là, inapprivoisés. Dieu soit béni, nous venons de la grande église méthodiste, nous venons de la dénomination baptiste, presbytérienne, pentecôtiste. Nous savons de quoi nous parlons. Personne n'a besoin, personne ne nous dira. Vous y voilà, inapprivoisés, inconvertis, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de... Espace blanc sur la bande de l'éditeur. De voir cela maintenant, j'aimerais simplement mettre cette chose en pièces, ainsi cela irait sur cette bande de toute façon. Mais nous n'avons pas le temps de le faire. Or, vous comprenez? Combien comprennent, dites Amen. L'Assemblée dit Amen, note de l'éditeur. Vous voyez, ceux-ci sont... Que veut dire Zoon? Z-2-O-N. Être vivant. Cela peut se prononcer Zoon. Z-2-O-N. Comment le prononceriez-vous? Zoon? Zoon, je dirais. Et Therion est T-H-E-R-I-O-N, Therion. Voyez-vous? Ainsi, cela veut dire bête, inapprivoisée, féroce, sauvage. C'est ce que ces bêtes... Prenez votre dictionnaire grec, référez-vous-y et voyez si cela n'est pas le mot. Regardez et vous le verrez. Consultez votre texte grec, votre version emphatique, et vous voyez si cela n'est pas vrai. Cela est vrai. Cela signifie un animal inapprivoisé. Donc, Apocalypse 11, 13 et 17. Et ici, dans Apocalypse 4, cela signifie un être vivant, non pas un animal, mais c'est appelé animal, mais ça ne l'est pas. Même chose en Ézéchiel. En Ézéchiel 1, versets 1 à 28. Peut-être nous le verrons dans une minute. Très bien. Inapprivoisé, inconverti, bête sauvage, inapprivoisé. Mais ceux-ci sont des êtres vivants. Que sont-ils? Ce ne sont pas des anges. Je vous dirai pourquoi. Lisons Apocalypse 5 de l'autre côté de la page. Apocalypse 5 et verset 11. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges, anges, pluriel, autour du trône. Et, est une conjonction, et des êtres vivants, et des anciens. Voyez-vous? Et est une conjonction. Voyez-vous? Ce n'étaient pas des anges, ni des anciens. C'étaient des êtres vivants autour du trône. Oh, n'aimez-vous pas ceci? Des êtres vivants. Ce n'étaient pas des anges, car ceci le prouve juste ici. Voyez-vous? Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Il y a trois différentes catégories ici. J'espère que vous avez tous ce système ici en bas. Maintenant, je désire vous montrer. Il y a trois différentes catégories de ceci, trois espèces différentes. Maintenant, regardez autour du trône. Voici le trône. Maintenant, les premiers autour de ce trône sont les quatre êtres vivants. À part cela, il y a les 24 vieillards, juste comme ceci, assis sur leur trône, des petits trônes en dessous. Et autour de ceci, cette grande armée d'anges autour du trône. Oh, oh, oh. Vous voyez ce qu'elle veut dire? Ils sont tous différents les uns des autres. Là, il y a des anges. Ici, il y a des vieillards. Et ici, des êtres vivants. Restons là-dessus une minute. Arrêtons-nous juste une minute. Des êtres vivants. Que sont-ils s'ils ne sont pas des anges? Ce ne sont pas des hommes rachetés. Que sont-ils? Voudriez-vous le savoir? Voici mon interprétation. J'espère qu'elle est juste. Je crois qu'elle l'est. Ce sont les gardiens du trône de Dieu. Maintenant, nous allons effacer ceci juste un peu. Maintenant, vous voyez, ce ne sont pas des anges ni des hommes. Ce ne sont pas des bêtes sauvages. Ce sont des êtres vivants. Maintenant, voici le trône de Dieu. Et ceux-ci sont ses gardiens. Lisons un peu là-dessus et nous le verrons dans quelques minutes. Voyez-vous, ce sont des anges des dieux, de Dieu, ou les gardiens du trône de Dieu. Et reportons-nous à Ézéchiel juste une minute. J'ai ces choses inscrites ici et je n'aimerais pas les passer. Et je sais que ceci est un... Reportons-nous au premier chapitre d'Ézéchiel et commençons à lire au verset, du verset 12 au verset 17 un instant. Chacun marchait droit devant soi. Maintenant, nous allons voir dans quelques minutes, et souvenez-vous de ce verset 7 ici, et regardez à quoi il ressemblait ici au septième verset du même chapitre de l'Apocalypse, les quatre. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un être qui vole. Maintenant, lorsqu'Ézéchiel vit la gloire de Dieu, il vit la même chose que Jean. Vous vous souvenez dimanche dernier comment nous avons parlé de la gloire de Dieu et de la photo où celle-ci fut photographiée avec nous? Vous vous souvenez de cela? La gloire de Dieu. La même chose que vit Ézéchiel, la même chose que vit Jean, la voici ici aujourd'hui. Cela fait de Jésus-Christ le même que du temps d'Ézéchiel, la même chose qui était ici sur terre. Le même Dieu est ici aujourd'hui avec nous, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui était, qui est et qui vient, l'entrée de l'âme, du corps et de l'esprit. La mère des reins, la parole, le sanctificateur de notre âme, et celui qui remplit du Saint-Esprit, la même chose. Voyez-vous, juste la même chose. Maintenant, observez ceci. Très bien. Ils allaient où l'Esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. Ils ne pouvaient pas se tourner. S'ils allaient dans cette direction, cela marchait comme un homme. S'ils allaient dans cette direction, cela marchait comme un aigle. S'ils allaient dans cette direction, cela marchait comme un bœuf. Et dans cette direction, ils marchaient comme un lion. Ils ne pouvaient pas faire marche arrière. Ils devaient avancer partout où ils allaient, chacune de ces bêtes. Maintenant, qu'est-ce qu'une bête représente dans la Bible? La puissance. Très bien, cela représente une puissance. Maintenant, l'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent, c'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante, et il en sortait une lumière. Cela est Dieu. Du feu sortait la lumière, non pas la lumière cosmique maintenant, la lumière éternelle. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux, Et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient telles que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Quel est le symbole ici, frère Branham? Qu'est-ce? Cela signifie que ces gardiens étaient les gardiens de l'arche de Dieu. Ils étaient en voyage, roulant sur des roues, lorsqu'Ézéchiel les vit. Mais lorsque Jean les vit, ils avaient déjà pris leur position exacte au ciel. L'arche de Dieu était sur la terre, roulant sur des roues, comme ils la transportèrent d'un lieu à un autre, montrant qu'elle était en voyage. Ils la transportèrent tout le long à travers le désert, et jusque dans le temple, et ainsi de suite. Mais ici, elle est reçue en haut, car l'âge d'église est terminé, et elle est reçue en haut dans la gloire, voyez-vous? Elle est stationnaire ici au ciel, avec tous les anges et le reste autour d'elle. Nous les voyons un peu plus loin ôter leur couronne et tomber sur leur face et lui rendre gloire, voyez-vous? C'étaient les gardiens du temple de Dieu, de l'arche. Maintenant, souvenez-vous de ces gardiens de l'arche de Dieu ou du siège de miséricorde. Maintenant, souvenez-vous. Mais combien Jean en vit? Combien Jean en vit-il? Combien? Quatre. Combien en a-t-il vu? Il en vit quatre aussi. Mais regardez. Ils eurent tous les deux la même vision. Et quatre est le nombre de la terre, saviez-vous cela? Or, combien savent, avant que nous en parlions, que quatre est un nombre terrestre? Certainement, comme les quatre Hébreux, c'est un nombre terrestre de délivrance. Délivrance. Maintenant, souvenez-vous de cela, la délivrance, car j'appuierai très fortement là-dessus, juste une minute. Voyez-vous? Délivrance. Maintenant, il y avait trois Hébreux, trois enfants Hébreux dans la fournaise ardente, mais le quatrième arriva, ce fut la délivrance. Lazare fut dans le sépulcre 3 jours, mais lorsque le quatrième jour arriva, il fut délivré. 4 est le nombre de Dieu de délivrance. Ainsi, cela montrait que ces êtres durent avoir quelque chose à voir avec la terre. J'espère que vous n'avez pas trop faim maintenant. J'espère que votre appétit spirituel est un peu au-dessus de votre appétit naturel maintenant. Voyez-vous? Très bien. Remarquez, ils avaient des yeux, ici dans Ézéchiel, devant et derrière et au-dedans. Lisons-le simplement. Regardez ici. Vous voyez ici? Je crois qu'il parlait d'animaux. 4 faces, comme un aigle et des ailes, remplis d'yeux au dehors et au-dedans. Regardez ici. Les 4 animaux, chacun d'eux ayant 6 ailes. Et ils volaient, et ainsi de suite, et avaient des yeux au dehors et au dedans et tout autour. Cela parlait de leur intelligence. Ils connaissaient ce qui était, ce qui est et ce qui viendra, car ils se trouvaient tout près du siège, et si près que ce n'étaient même pas des humains. Les gardiens du temple, ou non pas les gardiens du temple, les gardiens du temple sont les 144 000. Mais ceux-ci sont les gardiens du siège de miséricorde, les gardiens du trône, tout de suite après Dieu, les êtres vivants. Ils se tenaient là, tout de suite après Dieu. Leur intelligence, ils savaient ce qui était, ce qui est, ce qui vient. Ils avaient des yeux au dehors, montrant qu'ils pouvaient voir ce qui était à venir. Des yeux au-dedans, connaissant tout ce qui est maintenant. Et des yeux en arrière, connaissant ce qui était, ce qui est, ce qui vient. Répétant à travers les âges de l'Église, celui qui était, qui est et qui vient, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Retenez ces choses maintenant. Nous reproduirons cela au tableau dans quelques minutes. Observez cela. Maintenant, juste une minute. Cela révèle leur intelligence et cela montrait qu'ils savaient, ils savent, ils connaissaient tout l'avenir et le présent et le passé et tout ce qui était. Ils étaient infatigables. Ils ne devenaient jamais fatigués. Ils ne pouvaient avoir aucune parenté avec l'homme, car celui-ci devient fatigué. Mais ceux-ci étaient infatigables. Ils chantaient « Saint, Saint, Saint !»« Saint, Saint, Saint !»« Saint, Saint, Saint !»« Seigneur Dieu Tout-Puissant !»« Saint, sans fin, toute la journée et toute la nuit pendant chaque âge. Saint, reportons-nous juste une minute à un verset que j'ai à l'esprit. Ésaïe 6, rapidement. Observez, Ésaïe dit exactement la même chose. Chaque vision du Seigneur, c'est ce que je dis. Si les visions que nous avons aujourd'hui ne sont pas exactement des visions de la Bible, alors elles sont fausses. Si elles reflètent, ou si n'importe quelle révélation qui montre Dieu contrairement à ce qu'il a toujours été, est une fausse révélation. L'Église entière est fondée là-dessus. Matthieu 17. Voyons Ésaïe au 6e chapitre. Le jeune prophète s'était appuyé sur les bras du bon roi, et celui-ci avait acheté toutes sortes de beaux habits. Et il était un prophète, et il se plut là-bas. Mais un jour, le roi mourut. Ainsi, il dut se débrouiller. Ainsi, il descendit au temple pour prier, parce qu'il se mit à sortir de la maison du roi qui se trouvait là, puis pour recevoir. Le bon vieux roi était un homme brave et saint, mais il sortit et vit comment les gens vivaient. Ainsi, il se retrouva au temple. Maintenant, écoutez. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et la traîne de sa robe remplissait le temple. Gloire. Quelle est sa traîne? Voici. Ce sont des anges, des êtres, sa traîne qui le suivait. La traîne est ce qui vient derrière, voyez-vous? Sa traîne remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. » Oh là là! Cela montre que ces visions sont exactement les mêmes pour chacun de ces hommes. « Saint, saint, saint !» Ils sont inlassables, jour et nuit, saint, saint, saint au Seigneur. Retournons dans la Bible juste une minute pour être sûr que nous saisissons bien ce que sont ces êtres. La première fois que ces gardiens sont mentionnés, c'est dans la Genèse. Maintenant, souvenez-vous, tout ce que nous prêchons doit aller depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Chaque fois que vous désirez, si vous avez une question, venez me voir, voyez-vous. Ce doit être la Bible entière, pas seulement une partie, car Dieu ne change pas. Ce qu'il était dans la Genèse, il l'est aujourd'hui, et il l'était au Moyen-Âge. Il est toujours le même, voyez-vous. Maintenant, dans la Genèse, lorsque ces chérubins, c'est ainsi que nous les voyons, je devais retourner pour voir ce qu'ils étaient au commencement. Allons dans Genèse 3, 24, juste un moment. Genèse, chapitre 3 et verset 24. Vous aimez cela? L'assemblée répond Amen, éditeur. Très bien. Maintenant, commençons à peu près au 22e verset. J'aime simplement ceci. C'est quelque chose que je désire mettre là-dedans. Juste un petit surplus, mais cela peut être un grand bien un séjour. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Maintenant, mes charmantes et précieuses et bien-aimées sœurs, laissez-moi l'exprimer ainsi, ne pensez pas que j'essaie de tenir la grâce et loyauté du précieux joyau qu'est la femme. J'essaie de montrer ici qu'une femme, s'il vous plaît, j'essaie de montrer, et vous qui écoutez la bande, vous femmes qui écouterez ceci, je n'essaie pas de vous mépriser, je suis seulement un serviteur du Seigneur qui apporte la lumière. La chose la plus basse, la plus immorale et la plus immonde sur terre est une femme lorsqu'elle est mauvaise. Et le joyau le plus précieux qui soit pour l'homme, à part son salut, c'est une femme vertueuse. Et je parle de celle-là qui est basse, immorale et dégradée. Et je vais vous montrer juste ici, tandis que nous y sommes, je ferai aussi bien de vous montrer pourquoi la Bible enseigne que les femmes ne doivent pas être prédicateurs, pasteurs, docteurs ou quoi que ce soit d'autre dans l'Église. Maintenant, écoutez simplement ceci. L'Éternel Dieu dit, Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. La femme ne le devint pas, elle fut séduite. Le voyez-vous? Maintenant, Paul dit, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre quelque autorité, mais car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais la femme fut séduite. Ainsi, elle ne devint pas comme l'un d'eux. Elle ne savait pas mieux. Elle fut séduite. Le comprenez-vous? Si oui, dites Amen. Ainsi, je... » L'assemblée dit Amen et dit heure. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante. Voyez-vous les quatre bêtes? Il n'y a que quatre directions que vous pouvez prendre. Voyez-vous? L'est, le nord, l'ouest et le sud. Ces chérubins avaient une épée flamboyante à la porte du jardin pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parce que si l'homme pouvait jamais s'emparer de l'arbre de vie, il pourrait vivre éternellement. Et ces chérubins mentionnés pour la première fois étaient placés à la porte de l'orient du jardin, allant dans les quatre directions. J'aurais dû le faire différemment. Je ne puis le dessiner exactement selon l'ordre de Dieu, etc. Mais afin que vous sachiez ce que je veux dire, voici le jardin d'Éden. Et ceci est la porte juste ici, qui s'ouvre ici. Et à cette porte se trouvaient les chérubins. Les chérubins, et souvenez-vous, il n'est pas dit un chérubin, il est dit des chérubins. Des chérubins furent placés là pour garder quoi? L'arbre de vie. C'est ce qu'ils devaient garder, le chemin de l'arbre de vie. Le chemin. Qui est le chemin? Jésus. D'où cela reflétait-il? Voici le lieu saint. Voici les chérubins. Maintenant, regardez, écrivez tous ceci. Voici le Saint des Saints. Ce Saint des Saints, le Saint des Saints, ceci est le lieu saint. Et voici la mer. Et voici la lumière, les lampes, les sept qui reflètent la lumière d'ici, ici, 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 ici. Voyez-vous? Que reflète-t-il? Il garde et éclaire avec le feu de Dieu le chemin de l'arbre de vie. Voyez-vous, cela ne peut pas venir d'ici, du séminaire presbytérien ou pentecôtiste. Cela doit venir d'ici, reflétant la lumière. Très bien. Vous remarquez ces chérubins que Jean dit ici, durent être intéressés à garder l'arbre de vie. Ainsi, ils durent s'intéresser aux êtres humains. Vous lisez la Genèse en retournant nouveau dans la Genèse. Ils gardaient l'arbre de vie. Ils le gardaient, le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Comment est le chemin? Jésus a dit, « Je suis ce chemin, je suis ce pain du ciel qui vient de Dieu. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Maintenant, il y a un chemin de retour à cet arbre de vie. Vous comprenez? Or, sur ceci, je désire montrer maintenant et rendre ceci certain que c'est un autel. Maintenant, ceci dut être un autel au jardin d'Éden. Je vous dirai pourquoi. Vous souvenez-vous que Caïn et Abel vinrent tous les deux adorer ici? Ainsi, cela montrait que l'autel de Dieu fut placé ici, au jardin d'Éden. Et le seul moyen de revenir à Éden est par l'autel. Vous y voilà de nouveau, voyez-vous? Retour à Éden par l'autel. Et il devait garder ce chemin-là, le garder. Ô Dieu, les gens ne peuvent-ils pas voir cela? Voyez-vous? Rien d'autre que le sang! Il doit y avoir une expiation, un siège de miséricorde là. Cet autel de jugement doit devenir un siège de miséricorde. Et lorsque cet autel, si le sang est enlevé, le feu de la colère de Dieu se tiendra là au jour du jugement pour garder à nouveau cet arbre. Le seul moyen par lequel on entrera de nouveau par cette porte en Éden sera par le sang de Jésus-Christ. Voyez-vous cela? Maintenant, remarquez. Oui, maintenant, Caïn. Oh, voici Caïn. Et voici Abel. Abel, très bien. Maintenant, Les deux garçons vinrent à cette porte pour adorer. Est-ce juste? Ainsi, cela dut être l'autel de Dieu, n'est-ce pas? Et avant cet autel-ci, ils construisirent comme substitut un autre autel. Voici le véritable autel de Dieu. Il est là, dans le cœur de l'homme. Puis il y a un autre autel ici, qui représentait le Saint des Saints dans le lieu saint. Oh, oh, j'ai envie de parler en langue. Oh là là, la gloire! Ne pouvez-vous pas voir que c'est parfait? Remarquez simplement. Oh, la raison pour laquelle je dis cela, c'est que je ne peux trouver les mots suffisants dans ma propre langue anglaise pour exprimer mon sentiment. Voyez-vous, quelque chose doit s'exprimer. Tout comme notre frère Ra, un diplomate qui servit le président, ou environ 4 ou 5 présidents, il dit, « Oh, frère Branham, un soir je vais à la réunion. Je ne savais que faire. » Il dit, « Je me tais là-dehors. Oh, toute ma vie j'ai aimé le Seigneur. » Il dit, « J'ai été un épiscopal, je pense. Je pensais connaître le Seigneur. » Il dit, « Et un soir, je regardais autour de moi, je ne savais que faire. Je ne voulais pas rentrer pour rien, mais j'entendis prêcher la parole. Oh, cela commença à venir. » Il dit, « Je commençais à me promener à l'extérieur de la tente et à faire les 100 pas. Soudain, je ne pouvais plus attendre de me rendre à la porte. J'entrais en rampant lorsqu'on fit l'appel à l'autel, et je courus à l'autel, tombé à terre, et dis, « Seigneur, je suis un pécheur. » Puis il dit, « Alors il me remplit de son Saint-Esprit. » Il ajouta, « Je peux parler 8 langues différentes. » Parce qu'il est, un diplomate, voyez-vous. C'est un diplomate qui a toujours servi le président, depuis Woodrow Wilson jusqu'à aujourd'hui. C'est un diplomate qui servit chacun de nos présidents, un diplomate à l'étranger, et il peut parler n'importe quelle langue étrangère. Il dit, « Je connais pratiquement chaque langue écrite dans le monde. » Mais, dit-il, je débordais tellement de gloire que je ne pouvais même pas utiliser aucune d'elles pour le louer. Ainsi, le Seigneur me donna une langue toute neuve du ciel pour le louer. Oh, oh, vous y voilà. Gardant cette porte, Caïn et Abel vinrent ici pour adorer. Ainsi, cela dut être l'autel qu'ils gardaient. Est-ce juste? C'est chérubin. Autre chose. Remarquez ici une autre évidence. Caïn, observez la Bible maintenant. Je voudrais que vous y alliez, mais peu importe, vous le trouvez dans la Genèse. Très bien, observez. Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur de la porte en Éden. Ainsi, la présence du Seigneur dut se trouver à l'autel, et l'autel se trouvait à la porte. Gloire! Oh, très bien! Voilà où Dieu demeure, à son autel. Or, Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur, de ce lieu. Vous désirez l'inscrire? Genèse 4:16, si vous désirez l'inscrire. Maintenant, vous l'avez tout inscrit, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une autre chose que je désire dessiner. J'espère qu'aucune de vos mines ne casse. Maintenant, remarquez. Laissez-les casser, de toute façon. Elles périront. Pensons à ceci. Ceci est la réalité. Moïse fut ravi au ciel. Moïse fut enlevé de la terre au ciel et vit l'autel de Dieu, n'est-ce pas vrai? J'essaie ici de prouver ma pensée. Vous savez ce que j'essaie de faire, n'est-ce pas? Très bien. Il monta dans la présence de Dieu, et lorsqu'il descendit de la présence de Dieu, il dit, « Dieu, dit à Moïse, fais tout sur terre d'après le modèle céleste, n'est-ce pas vrai? Très bien. » Maintenant, à ce moment-là, lorsqu'il construisit l'arche de l'Alliance, il mit 2 chérubins pour garder l'arche. Vous voyez ce que c'est? C'était le temple, c'était l'autel, les gardiens du trône. Les 2 chérubins, il dit, « Tu les feras d'airain et leurs ailes se toucheront comme ceci, parce que c'est exactement ce qu'il vit au ciel. C'est exactement ce que vit Jean au ciel. Ces 4 chérubins aux 4 coins de l'arche du trône dans le ciel. Ils étaient les gardiens de l'arche, des chérubins, des gardiens du siège de miséricorde. Si vous désirez lire ce verset, nous n'avons pas le temps de le faire. Écrivez Exode 25, 10 à 22. Maintenant, il garde le siège de miséricorde lorsque Dieu est dans sa Shekinah de la gloire. Où se trouvait la Shekinah de la gloire? Au siège de miséricorde. Est-ce juste? Il garde cette Shekinah de la gloire. Ouf! Écoutez, mes amis. Alors cela sert à montrer que n'importe quel vaurien ne peut pas venir là et prendre de cela. Vous devez être préparé avant d'entrer dans cette présence. Regardez Aaron comme type avant. Or, souvenez-vous, la congrégation en ce temps-là ne pouvait pas même s'approcher de cela en aucune manière. Mais lorsqu'Aaron entrait, combien de fois pouvait-il y entrer? Une fois par année. Comment avait-il? Il devait revêtir certains vêtements qui étaient confectionnés par des mains particulières, et c'étaient des vêtements spéciaux. Il avait une grenade et une clochette, afin que chaque fois qu'il marche, cela sonne « Saint, Saint, Saint au Seigneur ». Il s'approchait du siège de miséricorde avec le sang, et il devait être ouvert d'une certaine ville parfumée, ayant un certain parfum extrait de la rose de Saron. Et Jésus était cette rose de Saron. Remarquez, une rose est une chose magnifique, elle contient du parfum, mais avant que le parfum puisse sortir, la rose doit être écrasée, ensuite on en exprime le parfum. Jésus, quant à sa vie, ce fut la vie la plus magnifique qui fut jamais vécue, mais il ne pouvait demeurer ainsi, car il devait oindre son Église pour que celle-ci s'approche de sa sainteté. Ainsi, sa vie fut exprimée. Et le même Saint-Esprit qui était sur lui est mis sur l'Église. Et il fait de lui le même hier, aujourd'hui et éternellement. La rose de Saron, le parfum de celle-ci. Celui qui s'approche pour entrer dans ce Saint des Saints doit être loin du même Saint-Esprit. Et comme il marche, cela fait fin, 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 oh. Non pas avec un cigare à la bouche, fin. Non pas avec son col retourné, fin. Saint, saint, vêtu de la sainteté de Jésus-Christ, combien tu es merveilleux. Oh, maintenant, le siège de miséricorde. Or, le siège de miséricorde est dans le cœur. Le siège où brille sa gloire dans chacun de ses enfants. La Shekinah de sa gloire dans le cœur humain. Voici le cœur humain. Est-ce juste? N'est-ce pas le siège de miséricorde? Comment y entrez-vous? Par ces différents systèmes, par la volonté libre. La volonté libre, cela entre ici et passe par là pour en arriver où? À la Shekinah de la gloire. Qu'est-ce que la Shekinah de la gloire? C'est la présence de Dieu. Lorsqu'un homme ou une femme marche, il reflète la Shekinah de la gloire. Il n'entre pas dans des maisons de jeu et ne se conduit pas ainsi pour ensuite se retrouver ici et nier la parole. Peu importe ce que les gens disent, son cœur n'est attaché qu'à une chose, Dieu. Et s'il est vraiment appelé de Dieu, alors Jésus-Christ se reflète à travers lui avec la Shekinah de la gloire, faisant les mêmes choses qu'il fit alors, manifestant le même évangile, prêchant la même parole étant manifestée dans la même mesure qu'elle l'était alors, tout comme elle le fut réellement à la Pentecôte, elle est manifestée à nouveau dans la même mesure. Siège de miséricorde. Ézéchiel et Jean virent tous les deux les mêmes choses. Maintenant, remarquez, nous arrivons bientôt à la fin, dans quelques instants. Maintenant, il y a quelque chose que je désire que vous compreniez. Or, s'il vous plaît, ne le manquez pas. Combien savent que ces chérubins étaient des êtres vivants et non des bêtes? Ils étaient d'un ordre élevé. Maintenant, un ange est-il d'un ordre supérieur ou inférieur à l'homme? Très bien, monsieur. Lequel est le plus grand, un fils de Dieu ou un ange? Un fils de Dieu. Lequel Dieu entendra le mieux, un ange qui se tient là devant lui plaidant pour quelque chose, ou n'importe quel d'entre vous qui plaide? N'importe quel d'entre vous, voyez-vous? Parce que vous êtes des fils et des filles, ils sont des serviteurs, voyez-vous? Ils sont des serviteurs et vous êtes des fils et des filles. Ainsi, voyez-vous quelle autorité vous possédez? Ceci est l'endroit où l'utiliser. Maintenant, je désire que vous remarquiez ici. Ceci est magnifique. Oh là là, laissez-moi me rendre ici et passer un peu de ces choses afin que je puisse en arriver à ceci. Prenez vos crayons maintenant. Voici quelque chose que je désirais réellement vous dessiner. Frère Wanham fait un dessin sur le tableau, éditeur. Peut-être ferais-je mieux de le faire un peu plus petit. Maintenant, Israël, dans leur voyage, lorsqu'ils campèrent, maintenant, remarquez ceci attentivement. Ils campèrent 1, 2, 3, 4. Non, je ne l'ai pas fait correctement. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà la façon dont ils étaient campés autour du siège de miséricorde. Maintenant, et vous savez tous que vous avez observé ceci, lisez dans l'Ancien Testament. Maintenant, du côté de l'Orient juste ici, je l'écrirai afin que vous le compreniez clairement, l'Orient. Du côté de l'Orient, c'était toujours Judas. Ceci est la porte, J-U-D-A, Judas. Et Judas était le chef des trois tribus avec leurs bannières. Trois tribus avec leurs bannières, la bannière de Judas. Vous vous souvenez, combien ont vu les 10 commandements? Les 10 commandements de Cécile de Mille. Très bien. Vous avez lu juste ici dans l'écriture, que Judas était en Orient. Très bien. À l'Occident ici, maintenant, inscrivez-le. Vous pouvez le lire juste, c'est dans l'Exode, et ainsi de suite, comme il sortait. Et il y avait un PH, et celui-ci avait 3 tribus avec leurs bannières. Très bien. Ephraïm. Maintenant, et au sud se trouvait Ruben, R-U-B, avec 3 tribus et leurs bannières. Et au nord se trouvait Dan. Dan avec 3 tribus et 3 tribus et leurs bannières. Très bien. Maintenant, c'est ainsi qu'ils campaient. Or, souvenez-vous, lisons maintenant dans l'Écriture, afin de très bien comprendre ceci, je reprendrai depuis le verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Maintenant, remarquez bien, à l'Orient, il dit quelle sorte de face? Avez-vous remarqué? C'était un lion, L-I-O-N. C'est là la bannière, c'était là l'étendard de Judas, parce qu'il est, Jésus vint de là, c'est vrai, et il est le lion de la tribu de Judas. Maintenant, combien ont déjà vu le zodiaque? Combien de vous savent ce que c'est? Les étoiles, voyez-vous, ce fut la première Bible de Dieu. Or, avec quoi cela commence-t-il? Le premier nombre du zodiaque, la première figure, c'est la Vierge, est-ce juste? Et quelle est la dernière? Le lion. Le lion, la première et la seconde venue de Christ, d'un bout à l'autre. Ils ont le cancer croisé, ou l'âge croisé, là où se trouvent les poissons croisés, qui est l'âge du cancer. Et nous vivons précisément dans cet âge. Et remarquez dans la pyramide, lorsqu'il a construit au temps d'Enoch, chaque pierre y était. Il pouvait mesurer exactement ces choses et prédire les guerres, etc. Tout y est. Sauf la pierre fêtière. Pourquoi? Vous remarquez sur votre billet de 1 dollar, sortez-le et regardez, la pyramide n'a pas de fête. Pourquoi? Elle ne fut jamais coiffée. Christ est la pierre fêtière qui fut rejetée. Il fut la pierre fêtière rejetée. Il revient très prochainement. Regardez comment cette église, là-bas dans l'âge luthérien, tout à fait large au bas, puis cela devient une minorité. Puis de plus en plus petit, de plus en plus petit, en s'amenuisant toujours, puis après l'âge pentecôtiste, cela s'amenuise tout à fait pour que chaque pierre s'imbrique parfaitement et que le fait y soit placé, une église qui amènera Jésus le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est aussi parfait que ça peut l'être. Maintenant, il était le lion de la tribu de Judas. Or, quiconque a lu la Bible sait que le nombre de Dan était que, ou que Dan, je veux dire ce qu'était Dan. Il était un aigle. C'est juste, il était un aigle. Vous pouvez lire la Bible. Il était un aigle. Maintenant, Ruben était l'homme. Il était le premier, le plus pervers du groupe. Jacob n'a-t-il pas dit en Genèse 49, « Ruben, tu es les prémices de ma vigueur, tu es comme les eaux, mais tu as souillé ma couche en y montant. » Il vécut avec la concubine de son père. Voyez-vous, c'est l'immoralité de l'être humain. L'animal n'a pas cette immoralité, ni le lion, ni aucune de ses bêtes. Mais l'homme, oui, il ira courir avec la femme du voisin, etc. Tout comme exactement la même chose, tout se complète. Maintenant, ceci juste ici, ceci, Dan était un aigle, et ceci, Ruben était la face de l'homme, et Ephraim est le bœuf. Avez-vous l'image, maintenant, Ephraim, c'est ainsi qu'il campait dans la Bible. Or, si vous remarquez, Dan est le chef de trois tribus, Juda est le chef de trois tribus, Ruben est le chef de trois tribus, et Ephraim est le chef de trois tribus. 3 × 4 = 12. Les 12 tribus d'Israël, voyez-vous, chacune ayant sa bannière. Et la bannière de Juda était un lion, la bannière de Ruben, un homme, la bannière d'Éphraïm, un bœuf, la bannière de Dan était un aigle. Regardez de nouveau ici ce que j'en dis. Et l'un avait la face, lisons ici maintenant, juste pour voir si ce n'est pas la même chose qui était au ciel. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Exactement comme les tribus d'Israël qui campaient autour, gardant ses gardiens terrestres du droit à l'arche. Alléluia! Et ne voyez-vous pas? Regardez. Miséricorde. S-I-E-G-E. D-E-M-I-S-E-R-I-C-O-R-D-E, siège de miséricorde. Et rien ne pouvait s'approcher de celui-ci en aucune façon sans franchir ses tribus. Franchir quoi? Le lion. Franchir l'homme, l'intelligence de l'homme. Et franchir le bœuf de travail, comme un bœuf, en franchissant l'aigle, la rapidité de celui-ci. Voyez-vous, le ciel, la terre, entre et tout autour, vous voyez, ils étaient des gardiens, et au-dessus se trouvait la colonne de feu. Frère, rien ne touchait ce siège de miséricorde, son approche. Et le seul moyen de pouvoir s'y approcher était par le sang. Aaron entrait là une fois l'an avec le sang. Maintenant, voyez-vous, regardez. Chaque chef des trois tribus gardait le siège de miséricorde, le siège de miséricorde de l'Ancien Testament. Maintenant, est-ce que tout le monde l'a écrit? Maintenant, voici quelque chose de tout à fait nouveau, frère. Écoutez ceci, puis nous continuerons. Maintenant, souvenez-vous que ceux-ci étaient les gardiens de l'Ancien Testament. Combien l'ont déjà lu dans la Bible? Vous savez que cela est exact. Voyez-vous, ce sont les gardiens de l'Ancien Testament. Maintenant, nous vivons dans un autre âge. Gloire! Oh, j'aime cet âge, pas vous? Or, Dieu a un siège de miséricorde aujourd'hui qui doit être gardé. Croyez-vous cela? Où trouvons-nous le siège de miséricorde? Dans le cœur de l'homme. Depuis quand celui-ci est-il venu dans le cœur de l'homme? Depuis la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit, qui est Dieu, entra dans les cœurs humains. Est-ce juste? Maintenant, inscrivons ceci ici. Et préparons-nous à le dessiner, si vous voulez. La Pentecôte. P-E-N-T. Je mettrai Pentecôte. Ceci est le siège de miséricorde, le Saint-Esprit. Je mets ici, je vais vous dire ce qui serait plus approprié. Mettons ici la colombe, qui signifie l'oiseau, voyez-vous, très bien. Gardons le siège de miséricorde. Or, Dieu a-t-il des gardiens du siège de miséricorde aujourd'hui? Oui, maintenant, remarquez bien l'image magnifique. L'autre jour, j'étais assis et je vis ceci. Je sautai alors sur mes pieds et tournoyai autour de la chaire en disant « Gloire, 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 gloire !» Tournant et tournant. Charlie, tout comme je le faisais dans les bois parfois. Sœur Nelly, si je me conduisais comme cela chez vous, vous me mettriez à la porte, je pense. Oh, juste simplement un temps glorieux. Maintenant, regardez ce que c'était, ce que le Seigneur me donna. Maintenant, à la Pentecôte, après la Pentecôte, on écrit un livre de quoi? des actes du Saint-Esprit. A-C-T-E-S. N'est-ce pas vrai? Avec quoi commencent les actes, la première chose pour entrer dans le salut? Actes 2-38. Est-ce juste? Ils furent tous remplis de l'Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, et Pierre se tint debout et leur prêcha un sermon. Ils dirent, que ferons-nous? Comment allons-nous y entrer? Il dit, acte 2.38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Or, souvenez-vous, Dieu a des gardiens du siège de miséricorde. Quel est ce gardien du siège de miséricorde? Très bien. M-A-T-H. Matthieu à l'Orient, Luc, Marc et Jean. Chacun de leurs quatre évangiles confirme le livre des actes à venir. Ils le gardent sous n'importe quel angle que vous désirez le regarder. Prenons-en simplement un, juste un, nous avons le temps. J'en ai 20 ou plus d'inscrits, mais prenons simplement un verset sur ce sujet concernant le salut. Allons-nous avoir le temps de prier? Non, il est 1 heure ainsi. Je pense que nous n'aurons pas le temps à moins que vous désiriez tous la prière pour les malades. Maintenant, j'ai, oui, beaucoup de temps, voyez-vous. Un frère dit, prenez toute la journée, éditeur. Très bien. Maintenant, remarquez ceci. Matthieu, Marc, Luc et Jean. 15, le nombre terrestre des évangiles. 4, très bien, remarquez. Maintenant, Matthieu 28:19. C'est le passage que vous, frères trinitaires, prenez. 28:19, très bien. Matthieu, à la fin du chapitre, dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais voici que s'amène la Pentecôte, et Pierre dit « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. » Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Matthieu, es-tu ce gardien de la porte de l'Orient? Comment est la porte? La porte est quoi? Jésus. Jésus a dit « Étroite est la porte. » N'est-ce pas vrai? Comment cela s'est-il? S-T-R-A-I-T ou S-T-R-A-I-G-H-T? S-T-R-A-I-T signifie « haut ». Frère Branham, c'est un jeu de mots en anglais, note de l'éditeur. L'eau est la porte. Comment entrez-vous? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Cela ouvre les portes. Ah! Oh, mais, frère Branham, vous avez Matthieu 28:19 là-bas. C'est parfaitement exact. Mais, Matthieu, en es-tu le gardien? Certainement, j'en suis le gardien titulaire. Maintenant, prenez Matthieu 1:18 et voyez ce qui est dit. Voyez si cela garde ceci. Voyons si Matthieu 1:18 garde Matthieu 28 et Actes 2:38. Voyez s'il garde cela. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Essaie-t-il de dire? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Lequel? Cela fait des deux un seul. Et il arriva ensuite que, et voici, maintenant, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Voici, un ange du Seigneur, descendant, vint sur lui, vous savez, et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, voyez-vous. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Ésaïe 9:6. Une Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de... L'Assemblée répond Emmanuel, éditeur. Garde-t-il cela? Père, Fils et Saint-Esprit? Père, Fils et Saint-Esprit sont juste ceci, des titres de ce seul nom. Ainsi, le garde se tient juste là pour appuyer cela. Le comprenez-vous? Oh là là! Maintenant, combien savent cela? Le voici. Il est un garde. Maintenant, j'ai toute une série de versets sur le salut. Prenons ceci. Mais si nous devons avoir une ligne de prière dans quelques instants,
Essayons simplement quelque chose d'autre ici, pas pour environ 10 minutes. Prenons des versets d'inscrits juste ici. Les voici. Très bien. Maintenant, prenons Matthieu ici et voyons s'il gardera cela quant à la guérison divine. Ayez vos crayons et papier. Maintenant, si vous inscrivez ceci, très bien. Voici. Voyons si Matthieu divise. S'il gardera cela. Prenons Matthieu 10, 1. Prenons Jean et voyons si, juste un ou deux versets. Prenons Jean 2, un ou deux ce que sont ceux-ci. De ce que sont ceux-ci, Jean 14, 12 et 15, verset 7. Voyons s'il garde la guérison divine autour du trône de Dieu. Marc 16, Marc 11, 21 et 22. Luc 10, 1 à 12 et Luc 11, 29 à 31. Parcourons quelques-uns de ces passages pour voir s'il garde le droit à la guérison divine, comme il garde la porte du baptême au nom de Jésus. Nous pouvons faire passer cela à travers chacun d'eux, c'est juste. Maintenant, retournons simplement et voyons Matthieu 10, 1. Retournons maintenant afin que nous terminerons dans 5 ou 10 minutes au plus, le Seigneur voulant. Très bien. Prenons Matthieu 10. Voyons si Matthieu garde les actes des apôtres. Pensiez-vous que Dieu ne place pas de garde autour de sa parole? Voici ce bœuf, ce lion, cet homme et cet aigle. Ne sont-ils pas toujours placés à ses portes, juste ici, sur cette terre, en ce moment même? Ils sont les évangiles, les quatre évangiles, voyez-vous? Et remarquez, dans chaque direction qu'ils prirent, ils allèrent droit devant eux. Ils ne se contredisent pas l'un l'autre, ils s'accordent l'un avec l'autre. Voyez-vous? L'un va dans la clairvoyance de l'homme. L'autre va dans la rapidité de l'aigle, l'autre un pasteur, l'un est un évangéliste pour voler comme un évangéliste, voyez-vous, l'autre est un pasteur, il est hardi, l'autre est clairvoyant, voyez-vous, ils gardèrent de chaque côté. Dieu garde cet évangile du Saint-Esprit, croyez-le, frère, très bien. Prenons simplement Matthieu 10, 1, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. Ils s'assemblèrent dans la chambre haute, priant tous en son nom, furent baptisés du Saint-Esprit et reçurent la puissance de le servir. Ce qu'il fit pour eux ce jour-là, il le fera pour vous aussi. Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'entre eux. Oh, calmez les bébés juste une minute, écoutez simplement, écoutez attentivement. Et il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Beaucoup de pasteurs laissent simplement les esprits impurs demeurer dans leurs églises. La façon dont les femmes s'habillent et agissent, et les parties de cartes, les parties de bingo, les danses et les soupers à la soupe. Oh, miséricorde! De chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous voyez ce gardien placé à la porte, là? Le gardien de l'Évangile pour appuyer ce livre des actes qui fut écrit? J'entendis un grand enseignant, il n'y a pas longtemps, qui disait, un grand homme, un homme remarquable, je le rencontrai et lui serrai la main, un brave frère. Il dit, mais les actes des apôtres étaient seulement la charpente de l'église. Ah, autrement dit, il y avait la charpente ici, voyez-vous, alors que les actes des apôtres étaient à l'intérieur. Et ces quatre évangiles sont la charpente qui tient cela ensemble et le protège. Vous voyez tout ce que peut faire l'esprit humain. Je penserais la même chose si je ne l'avais pas. Voyez-vous, la charpente, la Pentecôte n'était pas la charpente de l'Évangile. Les quatre évangiles sont la charpente qui soutient la Pentecôte. Après qu'ils eurent cette charpente en place, la Pentecôte naquit. Est-ce juste? Lequel fut écrit le premier, le livre des Actes ou celui des apôtres? Celui des apôtres. Jésus se promenait, œuvrant et prédisant ce qui viendrait, et Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces quatre gardiens, vinrent et écrivirent tout ce qu'ils virent s'accomplir, le racontant tel quel, comment cela devait arriver et ce qui devait se produire. Puis ils l'entourèrent tous à la fois pour l'encadrer, et voici que celle-ci parut. Amen. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont la charpente ou la fortification qui protège le temple principal, le prône, la bénédiction pentecôtiste. Non pas la dénomination pentecôtiste, frères et sœurs. Ils sont complètement en dehors de l'affaire, plus éloignés que n'importe quelle autre église. Ils sont plus éloignés que les luthériens l'étaient. Les luthériens furent effectivement plus près qu'ils ne le furent, et c'est juste, et plus semblable à cela. C'est parfaitement juste, Jean, car tu sais, je n'ai pas vu Jésus à l'extérieur de l'église luthérienne, essayant d'y entrer, mais il essayait, car je pense qu'en premier lieu, il ne s'y trouva jamais. Il était dans l'église pentecôtiste et fut mis à la porte. C'est juste. Maintenant, Matthieu 10:1. Passons ici à Jean 14:12 et voyons si Jean va appuyer et garder les précieuses choses de la Pentecôte. Et en Jean 14, verset 12, Jésus parle et dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Oh, frère, cette porte-là, cet aigle qui se trouvait juste là parce que c'est le service de l'évangéliste, vous savez, il vole comme l'aigle. La rapidité, il entre directement dans le monde prophétique, là-haut, vous voyez, et voit les choses d'avance. Et il dit que ce qui était, ce qui est et ce qui est bien. Voyez-vous, ainsi, juste là, gardant cela, il dit, les œuvres que je fais, observez cet aigle, voyez-vous, voici le lion, le serviteur. Jésus leur donna la puissance et il protège cela. Il protège acte 2, 38. Il la transporte jusque-là, ce lion. Voici la rapidité de l'évangile avec cet aigle qui dit, « Ces œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez les plus grandes, volant à travers le monde avec cela, comme la colombe dont on arrachait la tête de son compagnon et sur laquelle on versait le sang qui dégoûtait en criant, « Saint, saint, saint au Seigneur !» Cela purifiait le lépreux. Oui. Maintenant, j'ai un autre verset ici. Jean 15, 7. Allons directement au 15e chapitre, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. N'est-ce pas vrai? Donc, nous voyons ici que cet évangile garda cela. Cette bénédiction pentecôtiste est gardée par Jean et son évangile, gardée par Matthieu et son évangile. Maintenant, passons à l'évangile suivant. Marc, au 16e chapitre. Voyons si Marc garda cette bénédiction pentecôtiste. Marc, le 16e chapitre. Commençons ici à peu près après qu'il parle de la résurrection. Continuons à descendre jusqu'à ce que nous arrivions à peu près au verset 14 de Marc 16. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Ils ne croyaient pas ceux qui essayaient de leur annoncer le message. Voyez-vous, il en est ainsi aujourd'hui. Les gens qui ont un témoignage du Saint-Esprit, les gens disent, stupidité, c'est une bande de saints comédiens. Et il leur reprocha la dureté de leur cœur, voyez-vous, et leur incrédulité pour ne pas avoir cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis ensuite, il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quoi? Prêchez ceci, il n'y a qu'un seul évangile, quatre gardiens. Prêchez cet évangile à toute la création. Or, souvenez-vous, il dit aux quatre gardiens à la fois, Matthieu, Marc, Luc et Jean, voyez-vous, prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez, vous devez passer par ce baptême-ci. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oh frère, croyez, je vous en prie. Et, conjonction, servant à relier le reste des phrases ensemble, et ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Eh bien, maintenant, voyons, que dit le méthodiste? Si vous pouvez crier, menez une bonne vie. Les baptistes disent, ayez simplement la foi et soyez baptisés. Les épiscopaux disent, tenez-vous comme cela, comme un épiscopal, et inclinez-vous lorsque le chant sera terminé. Et les catholiques disent, dites un je vous salue Marie. Les pentecôtistes disent, joignez notre dénomination, soyez baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il en est, voyez-vous. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, non pas Père, Fils, Saint-Esprit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ô frère. Maintenant, retournons tout de suite au 11e chapitre, puis nous terminerons. Matthieu 11, et j'ai 20 et 21. Jésus parle. Toutes ces paroles sont celles de Jésus, maintenant. Il n'en est aucune qui ne soit ses paroles, chacune d'elles le sont. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant un figuier, c'est lorsqu'il maudit l'arbre, c'est Matthieu 21. J'ai verset 12, c'est plus loin, Marc 11, versets 21 et 22. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, voyez-vous, je vous le dis en vérité, alors cela est à l'intérieur. Je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ose-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Oh là là, la porte du sud fut gardée par le bœuf, la porte du nord gardée par le lion, la porte du nord, je veux dire la porte de l'Orient, et la porte du nord est gardée par l'aigle qui vole, Jean, l'évangéliste, puis le médecin de ce côté-ci, Luc, l'homme. Maintenant, voyons ce que dit Luc. Prenez Luc, premier chapitre. Je crois que nous avons Luc 10, versets 1 à 12, et c'est la commission. Vous savez tous ce qu'elle est, mais Luc, chapitre 10 et 1 à 12. Très bien, nous voulons continuer de le lire au complet, mais nous n'en avons pas le temps. Partez, je commencerai au verset 3. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, voyez-vous. N'entrez pas dans quelque nom de dénomination. Vous allez comme je vous envoie, voyez-vous. Ne partez pas avec l'assurance que vous allez recevoir 100 000 dollars pour ce réveil. Si vous ne les recevez pas, vous ne partez pas, voyez-vous. Vous planifiez vos campagnes, alors qu'il dit « Allez où je vous envoie », voyez-vous. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Ne vous arrêtez pas en disant « Je vais aller voir comment ils vont, comment vont ceux-ci, comment ceux-ci ». Allez directement où je vous envoie. Ne prêtez attention à personne d'autre. Dans quelque maison que vous entriez, dites que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Or, toutes ces histoires à propos de ne pas manger de la viande et ainsi de suite, miséricorde, voyez-vous, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, allant dîner chez les Jones aujourd'hui, et le lendemain chez le couple suivant, et le surlendemain chez le couple suivant. Restez à cet endroit même. C'est la raison pour laquelle, vous savez, lorsque je vais dans une réunion, je reste à l'hôtel. Et je reste juste là. Et c'est précisément là où je trouve la paix. Voyez-vous, n'allez pas de maison en maison. Dans quelques villes que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Maintenant, laissez-moi lire le verset suivant. Mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Oh frère, quelle assurance bénie! S'il ne voit pas, s'il ne vous reçoit pas, allez votre chemin. Dites simplement, eh bien, si vous ne voulez pas de moi, je secouerai la poussière de mes pieds et je pars sur le champ. En d'autres termes, dites, je n'ai jamais rien pris. Si je mange quoi que ce soit, je vous le paierai. Et continuez. Il dit, en vérité, et chacune de ces villes où ils allèrent et où ils ne furent pas reçus, chacune d'elles a été engloutie et est disparue aujourd'hui. Et chaque ville qui les reçut demeure jusqu'à aujourd'hui. Vous y voilà. Maintenant, un verset de plus, puis nous terminerons. Voyons, nous avons Luc chapitre 11, 29 à 31. Luc 11, 29 à 31, puis nous terminerons. Oh, j'aime ceci. Comme le peuple s'amassait en foule, voyons, est-ce Luc, Luc 11, 29? Oui, je pense que cela le sera, oui. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, De même, le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Que suis-je en train de dire maintenant? En terminant, il me faudra simplement laisser le reste de côté. Mais en terminant, je désire dire ceci parce que je vous ai gardé si longtemps. Qu'est-il en train de dire ici? Un jour viendra où une génération méchante et adultère, maintenant, souvenez-vous, cherchera un signe, et ceci est une génération méchante et adultère. Et il dit, cette génération recevra un signe. Quel genre de signe? Dans le reste des Écritures, le signe de Jonas. Jonas fut dans le ventre de la baleine 3 jours et 3 nuits. Ainsi, le Fils de l'homme doit être dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Que sera le signe de la résurrection? Voyez-vous, le signe de la résurrection sera accompli dans une génération méchante et adultère, et il fut accompli par le livre des Actes. Jésus ressuscita d'entre les morts, entra en Pierre, en Jacques et en Jean, et dans les apôtres, et ils firent ce livre des Actes. Ce n'étaient pas les Actes des apôtres, c'étaient les Actes du Saint-Esprit, œuvrant dans les apôtres. Ce n'est pas l'homme aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit œuvrant à travers l'homme ou les hommes, voyez-vous? C'est lui qui fait le travail, ce n'est pas l'homme. L'homme est juste un vase, voyez-vous? Mais le Saint-Esprit est l'huile qui est dans ce vase, voyez-vous? Et regardez ce qu'ils firent, regardez les signes qu'ils accomplirent de Jésus. Ils les avaient remarqués parce qu'ils étaient ignorants, illettrés, Pierre et Jean. Mais ils avaient remarqué qu'ils avaient été avec Jésus. Ils firent les choses qu'ils firent. Ainsi, vous voyez, chaque livre de la Bible, les 4 livres, les 4 évangiles gardent la bénédiction pentecôtiste avec chaque verset pour appuyer exactement ce qu'ils disent. Et maintenant, les Actes des apôtres confirment aujourd'hui avec les 4 évangiles que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. L'aimez-vous? Ils s'assemblèrent dans la chambre haute, priant en son nom. Baptisés du Saint-Esprit, ils reçurent la puissance pour le servir. Ce qu'il fit pour eux en ce temps-là, il peut le faire pour vous aussi. Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'entre eux. Laissez-moi le chanter. Ils s'assemblèrent dans la chambre haute, priant tous en son nom, baptisés du Saint-Esprit, et ils reçurent la puissance pour le servir. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Ce qu'il fit pour eux en ce temps-là, il peut le faire aussi pour vous. Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'entre eux. Il se peut que ces gens n'apprennent pas à être, pas juste comme Pierre, Jacques et Jean, ou enflés de popularité, mondaine. Ils ont tous reçu leur Pentecôte, baptisés au nom de Jésus. Et ils vont raconter partout que sa puissance est toujours la même, exactement la même qu'elle était. Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'entre eux. Oh, venez, mes frères, cherchez cette bénédiction qui purifiera votre cœur du péché, qui commencera à faire sonner les cloches de joie et gardera votre âme en feu. Oh, elle brûle maintenant dans mon cœur. Oh, gloire à son nom. Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'entre eux. Alléluia, l'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'entre eux. Espace blanc sur la bande, éditeur. Cela séduit bon nombre de gens. Bien des gens ici dans les rues qui vont à l'église, qui appartiennent à l'église, sont séduits comme Ève le fut au commencement. Ils ne connaissent pas mieux. Oh, venez recevoir l'arbre de vie, maintenant au lieu des chérubins. Or, je désire dire quelque chose. Au lieu de ces chérubins qui gardent le trône, ils sont ici cherchant, essayant de courir après les gens pour les garder attachés au trône. Essayons de les faire passer par la porte
essayant de les ramener à l'arbre de vie, afin qu'ils puissent accepter ceci. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie de Dieu qui vient du ciel. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est juste. Oh, je suis si heureux. » Combien y a-t-il de malades dans la pièce? Laissez voir vos mains. Levez vos mains. Très bien. Combien en est-ce compris, Billy? Où se trouve-t-il? A-t-il distribué les cartes de prière? Espace blanc sur la bande, éditeur. Très bien. Qui possède? Maintenant, vous tous, regardez de ce côté-ci. Or, c'est juste comme cela, lorsque cela vient dessous, la gloire ici, voyez-vous? Voyez-vous? Ils prirent, c'est la lumière ici. Vous avancez ici, voyez-vous? Maintenant, regardez, c'est juste une réflexion. Juste une réflexion que vous voyez là. Ce n'est pas la lumière. Voici la lumière qui est suspendue juste ici, voyez-vous? Juste ici, au-dessus de cette femme. Je viens de l'apercevoir, et j'ai pensé qu'elle était au-dessus de quelqu'un. Maintenant, vous en voyez une, et j'en vois deux. L'une est la naturelle, et l'autre est la surnaturelle. Il y a un homme qui est assis ici, qui est assis à l'extérieur, sous cette ligne, regardant vers cette lumière. Cela l'a frappé. Il est de Seymour, Indiana, et il a eu une attaque de paralysie. Si vous voulez croire, monsieur, Dieu vous guérira de cette attaque de paralysie. Amen. Croyez maintenant. Croyez-vous de tout votre cœur? Alors, si le Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, veut me laisser faire quelque chose pour vous prouver que c'est Dieu, croirez-vous de tout votre cœur? Votre condition est une condition nerveuse causée par une ménopause. Vous croyez que Dieu va vous guérir? Vous n'êtes pas ici non plus. Espace blanc sur la bande, éditeur. Quel est votre trouble? Et en faisant ici, s'il vous guérirait? Espace blanc sur la bande, éditeur. Pourrez-vous guérir parce que ce n'est pas vous qui désirez être guéri, c'est votre fils, voyez-vous? Il est en Virginie. Croyez-vous que je puis vous dire ce qui ne va pas avec lui, avec l'aide de Dieu? Il a des ulcères, c'est juste. Et il y a une autre chose qui ne va pas avec lui, il n'est pas sauvé. Et vous priez pour lui. Maintenant, Madame Baker, retournez à Somerset et croyez de tout votre cœur. Et Jésus-Christ le guérira. Espace blanc sur la bande, éditeur. Vous guérir, vous l'acceptez comme votre guérisseur, si vous pouviez. Espace blanc sur la bande. Guérisseur, Paul a dit une fois. Espace blanc sur la bande. Cet auditoire de gens qui a écouté attentivement jusqu'à cette partie du jour, Seigneur, maintenant, Seigneur Dieu, je te prie, je prie que ta miséricorde et ta bonté reposent sur eux. Satan, je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, sors de ces gens. Ils sont restés pour écouter l'Évangile, tu ne peux plus les retenir, que la puissance du diable qui a lié ces gens s'en aille.